Hello, I'm not that girl, chante, c'est un groupe qui s'appelle, c'est Bri Oglou, la chanteuse, et I'm the boy qui va vous lire les journaux ce matin pour la revue de presse, pour le deuxième jour consécutif, puisqu'on a fait une petite revue de presse sympa hier, lundi, on remet ça aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on envoie de la force, s'il vous plaît, à Tagu, qui est à l'hôpital, qui est dans le chat, qui nous dit qu'après une opération du ligament croisé antérieur, on est très précis, ce stream va peut-être lui faire oublier la douleur. Ben, j'espère bien, mon ami. Comment ça va, vous? Est-ce que tu vas encore craquer pour un triple stream aujourd'hui, Nico Manga a raison, on a fait un triple stream hier. Oui, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Ne faites pas ça à la maison sans un entraînement rigoureux. On a fait un triple stream, on a fait une revue de presse hier matin. Mes rendez-vous de l'après-midi ont été plus courts que prévu. Du coup, j'ai lancé un petit stream gaming. Et puis le soir, il me restait un petit peu d'énergie. Et puis j'avais envie de jouer avec Joe également. On a bien rigolé. Donc on a fait un troisième stream. Eh bien, non, pas ce matin. Petits yeux ce matin, Sam. Oh, Lilou Rennes. Comme toujours. Vous savez que j'aime aller taper dans le sommeil pour pouvoir faire plus de trucs dans la journée. Est-ce bien raisonnable? On se le demande. En tout cas, pas de triple stream aujourd'hui. Peut-être un double. Puisque j'ai un tournage cet après-midi, le pilote d'une émission télé, où je suis l'invité, où je joue l'invité pour un ami producteur qui est un de mes grands amis en télévision. Donc, vous pouvez donner un petit coup de main. Je fais l'invité d'une nouvelle émission autour de la gastronomie. Voilà, je vais faire la cuisine. Ils ne vont pas être déçus. Donc, petit stream peut-être ce soir, par contre, mais après le dîner avec mon amoureuse, puisque le mardi, je dîne avec Hélène. Et donc, ce sera un stream tardif, j'annonce. J'annonce un petit 22h, quoi. Hein. Au plus tôt. Voilà. Donc, double stream quand même aujourd'hui. Ses yeux s'agrandissent quand il entend la musique de Valo. c'est pas faux, Adrogue Gamer. C'est pas faux. Mon ami, Sorbet Citron 84, merci beaucoup pour le 14e mois. Kigon, merci beaucoup pour le 5e mois. Ça sent le café et l'encre fraîche des journaux ou quoi? Alors, le café toujours, l'encre fraîche un peu moins depuis que je lis exclusivement les journaux sur ma tablette que je télécharge le matin. Même si j'aime bien cette odeur des journaux. Cro Samuel, joli pseudo, merci pour les bits. Azargor, merci pour le soutien. Le GG au Big Zen, merci beaucoup pour les subs. Ah non, ça, j'ai pas entendu Mindless. Tiens, je vais regarder. Ouais, je suis pas au courant de cette histoire, mais c'est intéressant ce que tu dis là. La soirée Hélène et les garçons le mardi. C'est pas faux. Bah non, justement, c'est soirée Hélène SDF. C'est pas du tout la soirée Hélène et les garçons, puisque du coup, on laisse les garçons à la maison. Non, pas tout seul, bien sûr, sous surveillance, les chouchous. Mais le mardi, c'est notre soirée à nous deux et on se fait un petit dîner en général au restaurant pour se raconter un peu nos journées, nos vies, parler de nos projets, voilà, de travail, de familiaux, de vacances, un petit moment juste à nous deux, c'est qui est un peu sanctuarisé quoi. Alors tous les mardis matin, les enfants nous disent est-ce que vous allez au restaurant ce soir? Et bah, du coup, oh non, c'est aujourd'hui, bah oui. Mais... C'est dans un, même si on adore notre vie de famille, c'est bien aussi dans un couple de, d'avoir des moments pour soi, en fait. Voilà. Et c'est Hélène qui a mis ça en place. Et c'est cool. Donc, du coup, je vais streamer tard. J'ai loupé hier la naissance d'une légende avec Sam le Bob. Ceux qui étaient là hier soir tard ont pu effectivement voir apparaître ce personnage qui ne vient pas souvent sur Twitch, qui est un peu mystérieux, alias Sam le Bob. Mais non, il fallait être là. Vous aurez peut-être. Il a dit salut Dark, il y a des matinales tous les jours. Alors, il y a eu des matinales tous les jours, des matinées Étienne. À une époque, c'était vraiment la base de ma chaîne. Et puis, le travail venant, les projets étant trop nombreux, et surtout la passion du gaming s'emparant de mon corps. Du coup, ben, j'ai un peu moins streamé de revue de presse ces dernières semaines. Mais là, on est reparti très fort, puisque vendredi, on était en vue de presse. Hier, en vue de presse. Ce matin, en vue de presse. Demain matin, a priori, en revue de presse. Voilà, donc c'est un engagement que je prends vis-à-vis de la communauté. Puisque même si beaucoup étaient contents de me voir rager sur des jeux et découvrir cette culture que je trouve fascinante, certains me disaient, dis donc, Sam, la revue de presse. Bon, voilà, la revue de presse est de retour, ça, je peux vous le dire. Et notamment cet été, on va faire pas mal de revues de presse également, sauf juillet, parce que juillet, je suis en Corse. Voilà. Donc, il y aura un setup gaming, mais je vous avoue, salut Frenchio Guillaume, je vous avoue que cet été, en juillet, les trois premières semaines de juillet, je ne me lèverai pas à 4h du matin pour lire les journaux pour vous. Non. Non, je ne le ferai pas. Pour mon sommeil, pour ma santé, pour la famille, mais il y aura du gaming le soir, puisque j'emmène mon setup. Voilà. En revanche, fin juillet et août, il y aura de la revue de presse. Et là, il y aura de la revue de presse, et il y aura beaucoup de revue de presse. Et à la rentrée, on s'organisera pour qu'il y ait de la revue de presse, pour qu'il y ait cette base de cette chaîne qui ne disparaisse pas. Quoi. Voilà. Au contraire, tu vas aller à la salle de sport à la place. Il serait temps, vieux pudding, parce que je ressemble, moi, de plus en plus physiquement, à un vieux pudding, justement. Donc, ouais, ce serait bien que je reprenne un petit peu le sport. Salut Cyril. Salut Frenchy. Rocket League. Oui, potentiellement, c'est un jeu auquel j'aimerais rejouer. J'ai rejoué Rocket League sur mon petit PC portable, la console de jeu PC, là. Et c'est vrai que c'est pas mal, Rocket League aussi. C'est pas mal. Peut-être, ouais. Pourquoi tu veux que tu parles du contre-amiral Olight? Tu connais l'histoire du contre-amiral du Drésiguet, c'est ça? C'est un homme dont j'ai salué la mémoire déjà ici. Là, tu te fais à 4h du matin? Ouais, à peu près, petit bout, ouais. C'est tout ça, j'ai les petits yeux le matin parfois. Ouais. Ouais, Rafa, bien sûr qu'on va en parler. Alors, c'était pas hier, c'était pas lundi, Mister Pota, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. On en a parlé d'ailleurs dès hier matin de ce qui s'est passé à Rafa, dans la bande de Gaza. Dès hier matin, et on va en reparler ce matin. C'est la une du monde, c'est la une de l'humanité. Il y a des gros papiers dans tous les journaux, bien sûr. Et les revues de presse sont en diffusion sur ma chaîne YouTube Etéia Panda dès le lendemain 13h. En fait, tu as tout sur YouTube, effectivement. Cyberpunk, j'adorerais Overcross, j'adorerais. Ouais, on va en parler, bien sûr. Comment ne pas en parler d'ailleurs? Comment ne pas en parler? Allez, la tasse de café, vous inquiétez pas, il y a... qui s'inquiète? C'est Tilrael qui s'inquiétait de pas avoir la tasse de café. Elle n'est jamais loin ici, sinon... ça ne tue pas. Il y aura du Rafael Nadal, bien sûr. Bien sûr, Aladdin. Bien sûr, comment ne pas parler de Rafael Nadal? Ah, Rafa, vous avez pensé à Rafa Nadal? Oui, d'accord, ok. Non, je veux parler de Rafa dans, à Gaza, mais on parlera de Nadal aussi. Salut Chris, ne renverse pas ta tasse cette fois, ton tapis de table n'a plus soif, oui. Mon tapis de souris League of Legends a un délicat parfum de café parce que j'y renverse souvent des cafés, heureusement sans sucre. Je vais répondre très franchement à Mademoiselle Bébé qui me dit assez franchement elle aussi ceci, et je lui demande bien votre avis. Salut Sam et salut à tous. Est-ce que ce serait possible que tu sortes de ta phase maniaque, le mot est pas très joli, maniaque sur Valo pour streamer d'autres jeux sans vouloir être désagréable? Deux remarques. D'abord, j'ai un plaisir infini sur ce jeu. C'est voilà, j'adore découvrir de nouveaux jeux, j'adore jouer en général, grâce à vous, puisque vous m'accompagnez vachement bien sur cette découverte, mais j'ai un plaisir évident et que j'ai du mal à expliquer sur ce jeu. Voilà. Et je pense qu'on est ici pour partager du plaisir. Voilà. Et donc, je vais vers ce jeu qui me procure du plaisir et qui, du coup, provoque des choses aussi en stream. Première chose. Donc ça, c'est un truc très égoïste. Et encore, pas tant que ça, puisque à partir du moment où je m'amuse, du coup, ça crée quelque chose qu'on peut partager ensemble, comme la séquence du Bob, par exemple, hier, quoi. Après, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on pourrait varier un peu les plaisirs. Après, il y a un autre truc. C'est aussi un peu de votre faute. D'ailleurs, c'est toujours la faute du chat. C'est-à-dire que vous avez été très nombreux, par exemple, à me dire « Ah, c'est dommage, l'hebdo, Étienne, se termine. Vous savez, cette émission, j'avais 4 invités tous les vendredis qui me demandaient énormément de travail, de programmation, de préparation, tout ça et tout. Cool, j'entends. Mais, hélas, et peut-être parce que c'est peut-être normal et c'est naturel parce que Twitch reste une plateforme dont le cœur du réacteur est le jeu vidéo. Vous êtes beaucoup plus nombreux, à regarder mes streams de gaming que d'actu. Voilà. Et c'est pas une histoire d'audience, c'est une histoire de partage. Ici, on est là pour partager du contenu et des moments ensemble. Et donc, bah, plus on est nombreux et plus c'est sympa. Voilà. Donc voilà, comme le dit Poirot Goulu, pardon Samuel, tout est de ma faute. Oui. Donc, il y a à la fois un truc de je stream du Valo parce que j'aime ce jeu et que ça me fait rire. Et du coup, ça fait des trucs sympas à partager. Et par ailleurs, c'est dommage que finalement, vous ne soyez pas aussi nombreux sur mes streams d'actu que mes streams gaming, quoi. L'hebdo Étienne, bon, ça marchait, hein, c'était sympa, hein, mais franchement, l'hebdo Étienne s'est arrêté parce que je trouvais plus de sponsors, parce que c'était compliqué d'accoler une marque à des thématiques aussi dures que le Proche-Orient, que l'Ukraine, etc., quoi. Donc ça s'arrête pour une raison économique, parce que cette émission elle coûtait cher à produire, mais c'était énormément de travail. 4 invités différents, journalistes, créateurs de contenu, personnalités à trouver toutes les semaines, c'était pour Bibi, ça. Énorme comme travail. Économiquement, je ne pouvais pas mettre quelqu'un dessus. C'est moi qui m'en occupais. Avec des invités qui, pour des raisons X ou Y, parce qu'ils ont une vie aussi, annulaient souvent. J'avais au moins 2 à 3 annulations par semaine. Donc, en fait, ce n'était pas 4 invités qu'il fallait trouver, c'était 6, 7. Voilà. Ensuite, trouver les 4 saints thèmes. Voilà. Qui allaient plaire aux invités. Donc, c'était d'énormes échanges en DM avec eux. Des thèmes qui allaient vous plaire. Des thèmes qui étaient dans l'actualité de la semaine. Donc, il fallait que je suive l'actualité de la semaine à fond. Voilà. Les échanges avec l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui était notre partenaire à la fin, qui nous apportait, en fait, partenaire pas financier, hein, mais de contenu, des images et des invités. Le travail était insane. Et pardon, les audiences étaient OK, mais n'étaient pas du tout en rapport avec ce travail gigantesque quoi, que je faisais sur cette émission. Quoi. Donc, à un moment, quand l'offre d'infos ne rencontre pas plus de succès que ça sur ma chaîne, un succès OK, mais qui n'est pas à la hauteur du travail... à un moment, ça fatigue un peu, quoi. Vous voyez ? Il y a ça aussi. Alors, quand je vois que sur un stream de gaming où j'ai évidemment pas du tout la même prépa, on a finalement le même partage, le même moment ensemble, le même plaisir de partager des trucs et à dire toutes les bêtises que j'ai envie de dire, bah, vous comprenez l'histoire ? Bon, après, je reste sur mes deux pieds, c'est-à-dire que vous avez... Comme vous le comprenez, j'essaie de faire un vrai effort pour que cette matinée Étienne de la revue de presse du matin, qui est le premier rendez-vous sur ma chaîne, revienne de façon extrêmement régulière. Quoi. C'est bien dommage, Frenchy, il fallait convaincre des potes de regarder plus. Quoi. Hein, hein. Après. Là, par exemple, on est le matin, donc vous êtes le public du matin, c'est le public qui est plutôt sur la matinée Étienne. Donc c'est normal que vous me demandiez ça. Voilà. À mon public du soir, si je vais leur demander s'ils veulent du gaming ou de l'info, ça va être l'inverse, quoi. Il te faut un assistant. Ouais, mais pour ça, le modèle économique ne marche pas, Technopop. Et moi, je ne prends pas des stagiaires que je ne paye pas. C'est pas du tout dans ma philosophie. Je ne supporte pas que les gens travaillent pour rien, quoi. Alors, attention, hein, je n'arrête pas l'actu. Hein. Au contraire, l'engagement ici, c'est que la matinée Étienne, la revue de presse, revienne hyper régulièrement. Quoi. L'hebdo Étienne s'arrête surtout parce qu'en fait, il n'y a pas de sponsor. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, France Télévisions m'accompagne pendant un an et demi pour m'aider un petit peu là-dessus. Mais en fait, il n'y a aucune marque qui veut mettre un budget sur une émission qui parle d'actualité et de l'actualité parfois extrêmement sombre. Quoi. Ce que je peux comprendre d'ailleurs économiquement. Donc, sauf que moi, j'ai un réel à payer, j'ai des invités à défrayer, j'ai des taxis à payer pour eux, donc, etc., etc. Et en fait, à partir du moment où il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'émission. Hein, c'est bête, quoi. On parle que de l'hebdo Étienne. Non, le React, j'aime pas trop le React. Il y a Alain qui me dit, le React, ça marche pas mal aussi, alors que ça demande quasiment pas préparation. Alors, j'avoue, je suis pas très, très fan du React, moi. Vous avez vu, j'en fais pas beaucoup. Je suis pas très bof. Dommage pour l'hebdo, c'était un chouette format. Ben, si vous saviez les efforts que j'ai sortis pour essayer que cette émission se poursuive, tu sais comment ils font Baxit alors Xons, tu connais le modèle économique de Baxit? Moi, je le connais très très bien, le modèle économique de Baxit. Et voilà. Donc, tu poses la question, mais est-ce que tu as la réponse? Il y a Xons qui dit, mais est-ce que tu sais comment ils font Baxit alors? Intéresse-toi au modèle économique de Baxit et tu verras que c'est un modèle économique très très particulier. Et en fait, il n'est pas reproductible chez moi. Quoi. En gros, c'est un modèle qui fait notamment beaucoup appel à la générosité des viewers, non pas sous forme de sub, mais de dons. Et en fait, je pense que sur le long terme, c'est un modèle qui est fragile, en fait. C'est-à-dire qu'une émission qui ne fonctionne que parce qu'elle fait appel à des dons, mais vraiment à la générosité, hein, financement participatif, on n'est plus sur le sub, hein. On est sur donnez-nous des sous parce que, en fait, économiquement, l'émission ne peut pas marcher toute seule. Je pense que sur le long terme, c'est très compliqué. Et puis moi, ça, je trouve que je demande déjà beaucoup d'efforts à ma communauté via les subs. Et en fait, ça me gênerait de faire appel à la générosité en plus, au-delà des subs, pour financer une émission. Quoi. Donc, alors après, Baxit, c'est une émission extrêmement ambitieuse, avec beaucoup de moyens, donc qui demande un énorme budget. C'est le modèle que Jean a trouvé pour financer Baxit, mais je le trouve vraiment très, très compliqué, quoi. Et puis surtout, j'ai du mal avec cette idée de demander un autre effort financier que je trouve déjà très important, au-delà des subs, en fait. Voilà. Et Asbel Sama m'en parlait aussi. Je pense que c'est OK pour une émission comme ça sur Twitch. Et c'est bien que les gens soutiennent Jean, qui est un garçon formidable, et cette émission, qui est une très belle émission. Mais en vrai, je trouve que sur le Twitch France, il n'y a pas de place pour 1000 émissions comme ça, quoi. Je préfère que vous donniez vos sous à Jean, quoi, pour dire les choses. Hein? Oui. Mais je trouve ça dur, quoi, parce que je pense que c'est beaucoup de soucis aussi pour lui, quoi. Sans arrêt, c'est compliqué. Je pense que le modèle économique de Baxit, c'est très compliqué pour Jean, quoi. C'est beaucoup de soucis, quoi. Et moi, je chasse plutôt les soucis, moi. Sinon, la vie devient un enfer, quoi. Hein, c'est difficile de produire une émission principalement sur le don des viewers, d'y a Rogue Gamer. Oui, je trouve ça formidable, je trouve ça très beau, mais je trouve ça difficile. Pourquoi tu ne fais pas des redifs de live sur YouTube, Slucky? Peut-être parce que tous mes lives sont en redif sur YouTube depuis des années déjà, peut-être. Je pense que tu tapes Samuel Etienne sur YouTube. Tu vas peut-être trouver une chaîne où tu as tous mes lives depuis des années, depuis le début, tu vas tous les retrouver. Peut-être. Peut-être. Bon, et on l'a fait cette revue de presse? Peut-être, hein. Essaye, Samuel Etienne sur YouTube. Tu vas peut-être trouver un truc. Les amis, revue de presse, let's go. Bon, on est plutôt dans de l'actu assez lourde, hein, vous allez voir. On n'est pas sur beaucoup de bonnes nouvelles. C'est peut-être aussi pour ça aussi que c'est compliqué pour des sponsors de s'adosser à un rendez-vous d'actualité, ce que je peux tout à fait comprendre. Petit sommaire, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas 2 heures... ou 3 heures à nous consacrer. Il en parle souvent, Jean, du modèle éco, et montre bien à quel point c'est compliqué, combien coûte chaque émission. Je sais, Tobit, hein, je sais pour ça. Je pense qu'il n'y a pas la place pour une deuxième émission comme ça. Mon code de verrouillage, on s'en fiche, il n'a aucun sens. Vous avez, en 5 minutes, je vous donne l'essentiel de l'actu, ok ? De quoi on va parler ce matin ? De ça, évidemment de ça. Ce matin, hier, dans la version print PDF des journaux, il n'y avait pas un mot sur ce qui s'est passé à Rafah, le fait qu'Israël, l'armée israélienne, a bombardé un camp de civils, de réfugiés à Rafah. Pourquoi ? Parce que ça s'était passé dans la nuit de dimanche à lundi. Les journaux, ils vont à l'imprimerie, en fait, le dimanche soir. Donc, en fait, ils n'ont pas eu le temps de le mettre. Sauf qu'évidemment, comme vous m'avez signalé cette info très, très importante hier matin, dès les premières minutes de la revue de presse, on est allé voir sur Internet et on a trouvé des articles sur les sites Internet des journaux qui, eux, n'ont pas passé par l'imprimerie. Et on a trouvé notamment un article du Monde très précis. Je suis allé lire l'article du Monde d'hier après-midi, en fait, qui reprend l'article qu'on a lu hier matin, mais il est très bien fait, donc ça nous permet de rappeler ce qui s'est passé. Voilà, horrible, comme dit Divoel, ouais. Les mots manquent, parfois les mots sont insuffisants, les mots ne sont pas assez forts parfois pour dire l'atrocité d'un truc. C'est même pas horrible, c'est... On est au-delà de ça, on va essayer de trouver les mots. On lira donc Le Monde, c'est la une du Monde. Qu'est-ce que ça veut dire la une ? C'est-à-dire que pour Le Monde, sur 24 heures d'actualité, c'est l'événement le plus important. Un des événements les plus importants. Ou l'événement le plus important. C'est pour ça que ça fait la une. C'est ce que je reproche à Internet où tout est sur le même niveau, alors que dans un journal, Nerd Factory, que je regardais ce matin à mon réveil, je te regardais tout à l'heure, allez voir Nerd Factory, excellente, les modos vont épingler la chaîne. C'est marrant, je te regardais tout à l'heure, à mon réveil, mon premier café, entre la lecture des journaux, j'étais sur ta chaîne. Voilà. N'hésitez pas les modérateurs à épingler cette excellente chaîne, Nerd Factory. Nerd, d'ailleurs, plutôt. C'est ce que je reproche à l'actualité sur Internet. Tout est au même niveau. On ne sait pas ce qui est plus important. Voilà. La sortie d'un disque, la dernière petite phrase politique de je ne sais pas qui, X morts au Proche-Orient, des civils, des enfants, tout est au même niveau. Dans un journal, il y a une hiérarchie. On range les choses, quoi. Et ça a dû être mes girls. Et là, Le Monde nous dit que oui, c'est important. Non, c'est essentiel. Non, c'est peut-être même l'info la plus importante ces dernières 24 heures. Ça veut dire ça, la une d'un journal. C'est pour ça que j'aime bien lire les journaux, notamment parce qu'il y a une hiérarchisation de l'information. Regardez, c'est et la une de l'Humanité aussi. Hein, vous voyez, c'est la même idée. Il y a une double page dans Libération. Voilà. Il n'existe aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. Ce sont des mots prononcés à l'issue de comment on va le qualifier ? De ce massacre, peut-être, non ? 45 personnes, des civils, des hommes, des femmes, des enfants. Peut-être massacre, non ? On va voir, on va essayer de trouver les mots. Au moins 45 personnes tuées dimanche. Dans un premier temps, l'armée israélienne a essayé de dire non, c'est une opération militaire, circuler, rien à voir. On voulait taper deux responsables du Hamas. Et puis finalement, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reconnu un incident tragique. Incident, non, c'est pas assez fort, incident. Merci. La chaîne de Nerd Factory est alors, génocide, débat. Ben, vous êtes certains à dire, ben, c'est génocide. Génocide, mais le débat est intéressant. On l'a déjà eu mille fois ici. Ça m'amuse parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens, et ils ont raison, qui interpellent les créateurs de contenu, les influenceurs, en disant il faut que tu te prononces sur le Proche-Orient. Et parfois, en plein stream de Valo, là, ces derniers jours, j'ai des gens qui viennent dans mon chat, des gens qui connaissent pas la chaîne et qui disent Sam, il faut que tu te prononces sur ce qui se passe au Proche-Orient. Chouchou, on en parle quasiment dans toutes les revues de presse depuis des mois. Et moi, le Proche-Orient, je vous en parle depuis des années. Et puis, je suis ce conflit depuis presque 30 ans. Voilà. Et je suis allé sur place. Je suis allé voir de mes yeux, je suis allé rencontrer des Israéliens, des Palestiniens quand j'étais jeune journaliste parce que ça m'intéressait de comprendre. Voilà. Donc quand tu vois arriver comme ça des mecs dans ton chat, faut rester calme en fait parce qu'en fait les gens connaissent pas ta chaîne et j'ai pas à me prononcer sur le Proche-Orient. Je vous ai dit mille fois de ce que je pensais de ce qui se passait actuellement dans la bande de Gaza. Je vous l'ai dit mille fois. Vous savez exactement ce que j'en pense et je vais vous le redire ce matin. Hein? Donc ça, génocide. Un génocide, c'est quand un État, un peuple, une armée décide prévoit et planifie l'éradication totale d'une population, d'une ethnie. Un génocide. Hein, il faut aller voir le droit international. C'est pour ça que les mots sont importants. Est-ce que, je pose une question, je lance le débat comme dit l'autre, est-ce que Israël. Est-ce que le peuple israélien a décidé d'éradiquer totalement, physiquement, le peuple palestinien, le rayer de la surface du globe? C'est ça la question. C'est un génocide, c'est ça. Il y a une opposition en Israël. Il y a des gens qui sont totalement opposés avec ce que fait le gouvernement Netanyahou. Il y a des pacifistes en Israël. Il y a des Israéliens qui, depuis des décennies, tendent la main aux pays arabes et aux Palestiniens pour essayer de trouver des solutions. Israël est un pays divisé. Alors, un peu moins divisé depuis les attentats du Hamas, parce que du coup, ça a soudé les Israéliens ensemble. Et du coup, ils n'arrivent plus à entendre la souffrance du peuple palestinien, ce qui est gravissime, hein, dans leur immense majorité. Ils sont repliés sur leur propre douleur. Mais est-ce que le peuple israélien et Israël... dans son intégralité, veut la suppression totale du peuple palestinien, et là, il y aura génocide. C'est ça la question. C'est une question de droit, en fait. Voilà. Et on peut formuler la question différemment. Est-ce que Israël le veut? Est-ce que le peuple israélien le veut? Et si on disait, est-ce que Benjamin Netanyahou le voulait? Donc, un homme aujourd'hui qui était à la tête du gouvernement israélien et qui est un gouvernement d'extrême droite, hein, pour dire les choses. Peut-être que Netanyahou le souhaite. Mais, voilà. Mais, effectivement, le pouvoir à la tête d'Israël aujourd'hui, celui qui prend les décisions, et notamment militaire, c'est le gouvernement Netanyahou. Et c'est un gouvernement démocratiquement élu. Vous voyez comment le débat est compliqué? Ah. Bon, ce débat, on l'a eu mille fois, mais il ne faut pas l'éviter. Bon, on est dans le sommaire, on continue. C'est la une de l'humanité qui nous dit que ce qui vient de se passer est effectivement l'information la plus importante de ces dernières 24 heures. Massacre à Rafah. Vous voyez, l'humanité utilise ce mot de massacre, on l'évoquait tout à l'heure. L'impunité jusqu'où? Massacre de Rafah, les pays occidentaux au pied du mur. L'application de l'ordonnance de la Cour internationale de justice exigeant l'arrêt de l'intervention à Rafah relève de la communauté internationale. Dossier extrêmement intéressant de l'Humanité qui va nous permettre d'aller au-delà de l'émotion et du massacre. L'Humanité, c'est un journal qui, historiquement, est du côté des Palestiniens depuis toujours. Il faut le savoir. Il faut connaître l'histoire d'un journal pour le comprendre. Et l'Humanité a toujours été du côté palestinien depuis très, très, très longtemps. Et que dit l'Humanité? Et ce n'est pas, une analyse, c'est un fait. Le droit international, la communauté internationale, la justice internationale condamne depuis des années ce qu'Israël fait aux Palestiniens, hein, les colonisations illégales, etc. Voilà. Il y a un nombre de résolutions incroyables qui demandent à Israël d'arrêter tout ça. Voilà. Ouais, Ramzou, je comprends ta question, c'est pour ça que je pose la question, je n'ai pas répondu à ma question d'ailleurs. Parfois, on n'a pas la réponse à la question. Après, vous, il y a des gens qui ont les réponses à toutes les questions ici. C'est bien, je trouve ça formidable. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui aient comme ça des réponses à toutes les questions dans l'actualité, y compris les plus compliquées. Je vous admire, en fait, d'arriver à synthétiser autant d'informations compliquées et des histoires aussi longues. Bravo, c'est bien. Vous devez être en paix avec vous-même. Moi, je doute beaucoup, je me pose toujours beaucoup de questions. Je trouve tout très compliqué, mais c'est formidable. J'aimerais bien être comme ça, moi, avoir des avis définitifs sur tout. Je trouve ça un peu dangereux d'avoir les avis définitifs sur tout. Je trouve que ça crée à nouveau de la violence. Mais tant mieux pour vous. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Et donc, que nous rappelle l'Humanité ce matin? Que ça fait des décennies que la communauté internationale, le droit international, la justice internationale condamnent Israël. Pourquoi ces résolutions ne sont pas appliquées? Ah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Eliot Roth, donner des réponses sans exprimer une opinion potentiellement biaisée, c'est très compliqué. Exactement, ouais. Puis moi, je suis dans une posture de journaliste. Hein. Je ne suis pas dans une posture de militant. Sinon, ce ne serait pas une revue de presse, ce serait autre chose. Quoi. Peut-être que vous ne viendriez pas, d'ailleurs, si je faisais juste... si je donnais, voilà, comprenez hein. Donc, on va se pencher sur cette question qui est essentielle. Pourquoi les États, pourquoi les pays du monde entier ne font pas appliquer les résolutions qui... s'applique à Israël. Alors, par exemple, ils le font pour l'Ukraine, par exemple. Hein. La communauté internationale et la justice internationale a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et là, il y a eu une intervention, par exemple. Hein. Donc, l'humanité dit ça. Et pourquoi il n'y a pas d'intervention là? Bonne question. Ouais, c'est pas faux, 10 petits mépris qui passent par là. Non, moi, j'ai toujours eu très peur des gens qui étaient convaincus. Des gens qui sont convaincus de savoir. Des gens qui sont convaincus d'avoir compris et que finalement, les autres, ils n'ont pas compris. Ça me fait extrêmement peur depuis toujours. Et je pense que c'est les violences et les guerres viennent de là, de gens convaincus. Hein, deux camps, mais les deux camps sont convaincus d'avoir raison. Et bam, on se met sur la gueule. Les gens très, très, très convaincus me font très, très, très peur depuis toujours. Vous en pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, en fait. Je pense que une grosse partie des malheurs de ce monde viennent de là. Ouais. Donc, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, ça me fait super flipper. Et vous ne pouvez pas changer là-dessus. Allez, on parlera du Proche-Orient. Voilà. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec ma vision des choses, je vous demande de reconnaître que je suis sans doute le seul streamer de France qui parle aussi souvent du Proche-Orient. Allez, prenez votre petit chrono, allez voir mes revues de presse depuis des mois et des années, faites votre petit travail de chronomètre si vous voulez, mais même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes obligé de reconnaître que je suis sans doute un de ceux. Ah, le retour de pantoufle, ça faisait longtemps. T'as repris ton ancien pseudo. Que je suis sans doute celui ou un de ceux qui en parle le plus. Voilà. Hein? On parlera aussi de ça, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que parfois dans l'actualité il y a des bonnes nouvelles. Premier pas vers une taxation mondiale des milliardaires. Bon, ça aussi c'est un constat. En France et dans le reste du monde, alors ça, on va commencer par la France. En France, comme on a un système d'impôt progressif, en gros plus t'as d'argent, plus le pourcentage de tes revenus taxés est important, hein, c'est la progressivité de l'impôt, c'est très bien d'ailleurs. Donc c'est pas une, c'est pas, tu payes pas plus d'impôts parce que en valeur absolue, tu payes plus d'impôts en valeur absolue et en progressivité. Hein. Ça c'est une chose. Sauf quand tu deviens très 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 riche. Il y a un papier dans La Croix ici qui explique qu'en gros jusqu'à 0,1% des plus riches en France, bon l'impôt progresse hein, en pourcentage quoi, en taux de prélèvement. Mais quand tu passes ça par palier, exactement. Mais quand tu passes ça et quand tu arrives aux 0,01%, vraiment les très très riches, pour les milliardaires, quoi. Ça, voilà, jusqu'à un certain point, Rare Unity, exactement. Là, ça diminue. Quoi ? Donc les très 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 riches, proportionnellement, ils payent moins d'impôts que les très riches. Pourquoi ? Ah, parce qu'après, il y a des arrangements, il y a des holdings, voilà. C'est pas de l'évasion fiscale, c'est encore pire, c'est de l'optimisation fiscale. C'est légal, en plus. Ils ont les avocats, ils ont les comptables, ils ont les experts comptables. Nico Manga dit pourquoi ? Mais enfin, vous le savez, en fait. Bah, ils ont juste les moyens de faire travailler les gens pour trouver les petits trucs dans la loi, les machins qui font que sur un plan moral, c'est totalement immoral. Sur un plan de légitimité, c'est totalement illégitime. Mais c'est légal, hein, parce que la loi est ainsi faite. Voilà. Voilà. Et donc, bon, ça, c'est un constat qui est mondial. Et du coup, au niveau mondial, on essaye de créer une taxation mondiale des très, 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 très riches. On parle des milliardaires. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le chat qui est concerné ici, quoi. Il y avait une réunion du G7 en Italie où les ministres des Finances ont convenu d'entamer un travail sur une taxation minimale des individus au niveau international, ce qui pourrait rapporter un petit peu de sous pour faire des trucs. Voilà. L'argent irait où ? Ah ben, je sais pas moi, pour construire des routes, pour construire des hôpitaux, pour, je sais pas, un peu plus de justice sociale. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes à le dépenser en vrai. Merci Soldat. Ah, je ne remercie pas les Sobles, je suis parti dans des diatribes sur l'actualité. Soldat, merci pour les deux abonnements offerts à la commu. Kenawi, merci pour le troisième mois. Tasmani, merci pour le Prime. Pasgetti, merci pour le 20e mois. Pépin Camille, merci beaucoup pour le 34e mois. Et puis tout à l'heure, je vous disais, quelqu'un me disait, ah, pourquoi tu fais pas plus de React, le React, ça ne demande pas beaucoup de travail. Et puis, ça marche bien. Bah justement, en fait, c'est ça qui ne me va pas. En fait, pourquoi le React ne demande pas beaucoup de travail, ça marche bien ? Parce qu'on donne son avis, c'est toujours intéressant. Et ça ne demande pas beaucoup de travail, parce qu'en fait, le travail a été fait avant. Je fais une petite parenthèse. Le React, c'est ça, en fait. Tu crées du contenu, mais par rapport à un contenu que tu n'as pas fabriqué toi, qui a demandé du travail, parfois des équipes importantes, notamment quand il s'agit de télévision ou voire d'un stream. Quoi. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop séduit par le React et vous verrez que je ne fais pas beaucoup de React sur cette chaîne. Donc, c'est juste pour... parce que parfois, il y a des gens qui se servent de mes streams pour faire du contenu. Voilà. Faites votre propre contenu, les gars. Non, les régions, c'est pas pareil. La revue de presse, c'est une exception à la propriété intellectuelle qui est de lire plein de journaux et d'aller en chercher des petits bouts pour dépeindre l'actualité, en citant ces journaux d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est un autre exercice en fait qui existe depuis la nuit des temps. Là, je parle de quelqu'un qui s'empare d'un contenu, voilà, et puis qui fait son petit beurre dessus, quoi. C'est ce qu'on appelle le react d'ailleurs. Hein. Un react, c'est rarement quelqu'un qui a vu 600 émissions de télé et qui dit bah, tiens, voilà, ça, cette idée intéressante. C'est quelqu'un qui prend un programme, qui se le regarde pendant 2-3 heures, qui fait son truc. Créez votre contenu plutôt, les gars. Créez votre contenu plutôt. Donc, on parlera de cette taxation mondiale des milliardaires. Je dis ça pour quelqu'un dans le chat. Très bonne série de La Croix. Très bonne série de La Croix. Alors, La Croix, c'est un journal qui prend son temps. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un journal qui est aux antipodes de l'accélération du temps info. On va de plus en plus vite sur Internet pour donner des infos, peu importe si elles sont vraies. L'important, c'est de faire du clic. On va de plus en plus... plus vite sur les chaînes info, d'information. C'est pas grave si parfois l'info est pas très très juste. Un quart d'heure plus tard, il y a un autre journal, on en mettra une autre. Quoi. Étoile, question pour un champion, c'est même plus du React. Lui, il a tué le React, Étoile. Ah non, c'est pas un React aujourd'hui, ça n'a rien à voir, chevreuil volant. Tu n'as pas compris l'exercice de la revue de presse, pourtant je l'explique souvent. Étoile, la qualité de ce qu'il fait que c'est plus un React, on est au-delà du React. Et toi, il a créé une nouvelle émission. Il a la nuit de la culture. Voilà. Et en vrai, il pourrait prendre n'importe quel jeu de culture générale et ça marcherait aussi. Mais la qualité de ce qu'il fait qu'il est très au-delà du React. Voilà. Est-ce que la nuit de la culture n'est même pas supérieure à question pour un champion? Je pose la question. Voilà. Je me demande parfois. Et pourtant, je connais bien le gars qui fait question pour un champion. La Croix donc est engagée dans un super truc. En fait, c'est une série qui se penche sur tous les reproches qu'on fait à l'Union européenne. Voilà, sur genre 2 semaines quoi. Hier, c'était est-ce que c'est bien normal que en fait l'Union européenne donne moins à la France budgétairement que la France ne paye. Voilà. Hein, ça, c'est un truc qu'on entend souvent sur les eurosceptiques. Ah, mais c'est une catastrophe. Il faut sortir de l'Europe parce qu'en fait, on donne plus d'argent à l'Europe que l'Europe nous en donne. Ça, c'est un truc. Alors, la Croix s'est penchée sur cet argument-là et l'a démonté de façon assez intéressante. Là, c'est un deuxième épisode. Il y en a 10 en tout. Ils appellent ça la question qui fâche sur l'Europe. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on reproche à l'Europe. Attention, parfois, c'est fondé d'ailleurs. Il y a des choses qu'on reproche à l'Europe qui sont fondées. Hein. On n'est pas européen BA ici. Mais parfois aussi, il y a des idées reçues. La Croix bosse là-dessus. Et là, par exemple, c'est est-ce que les accords de libre-échange, dont on parle souvent, sont si mauvais pour les Européens? Voilà, bon, bah là, c'est pareil, il y a un dossier dans La Croix. Moi, je pense que si vous intéressez vraiment à l'Europe, n'hésitez pas à suivre cette série de La Croix. On est au deuxième épisode. Là, ça va durer 10 jours. Merci, God is a Cockroach, pour le Prime. Merci, Paul Axobre, joli. Merci pour le Prime. Mopo, merci pour le Prime. Solden, merci encore pour les désabonnements. Faire la commune. Je vois plein de questions intéressantes. Le problème, c'est que chaque question intéressante que je vois dans le chat, c'est 1 heure de réponse. Donc, si je ne vous réponds pas, ce n'est pas parce que je vous ignore. C'est parce que vous êtes un peu trop intéressant. Oh, ça, c'est intéressant. Ça tire à balles réelles dans Libération. Salut, la Milan Gaming. Ça tire à balles réelles. Mais genre à la Odin, quoi. C'est pas un pistol round, quoi. Dans Libération contre Marion Maréchal. Marion Maréchal, figure de l'extrême droite en France. C'est Samira Sadira, qui est chroniqueur politique à Libération, qui se penche, qui fait un react, tiens. Je suis taquin. Qui se penche sur les propos de Marion Maréchal à propos du Festival de Cannes, puisqu'elle s'est rendue compte qu'une actrice mexicaine transgenre, qui s'appelle Carla Sofia Gascón, avait reçu un prix d'interprétation féminine à Cannes. Oh là là, Marion Maréchal s'est mis en colère et dit « Ouais, c'est une honte, donc le prix d'interprétation féminine a été remis à un homme. » « Ah bah non, dit Libération. Ah bah non, en fait, non. Mais non, c'est pas parce que t'as le droit de le faire qu'il faut te raconter que des conneries, Marion, en gros. » Et donc, ce petit billet, cet édito est assez drôle. Puisque évidemment ça dénonce la transphobie de Marion Maréchal, mais pas seulement, vous allez voir, c'est assez bien écrit, et je vous le lirai à la fois parce que c'est plein de bon sens, et aussi parce que c'est très bien écrit. On va se faire un petit plaisir avec ça, quoi. Marion, bordel, mais oui. Hein. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est raté, c'est parce que j'ai pas mis de stabilo, le stabilo il est là. On aime les jeux vidéo, mais on ne se cache pas les yeux, et notamment sur les conditions de travail extrêmement difficiles dans le secteur. Vous savez que, comme souvent dans les métiers passion, les conditions de travail sont difficiles, les salaires ne sont pas toujours formidables. Voilà. C'est vrai dans le secteur du journalisme, par exemple. Moi, je vois, par exemple, je connais des jeunes journalistes, certains qui ont des chaînes Twitch, d'ailleurs, qui se plaignent beaucoup de la précarité en disant de ce milieu. Voilà, qu'est-ce que c'est dur d'avoir des piges, d'être payé, d'en vivre, en fait. Voilà, ça, c'est le secteur du journalisme. C'est un peu le cas de tous les métiers passion. Peut-être qu'un jour, je créerai d'ailleurs une émission sur cette chaîne, sur le monde du travail, de l'emploi, pour un peu montrer comme ça comment fonctionne ce secteur en France, et de quoi il faut se méfier. Et par exemple, qui dira que oui, attention, les métiers passion, c'est sympa, mais d'abord, tout métier ne doit pas être passion. On n'est pas obligé d'être passionné par son travail. Hein. Un travail qui permet d'avoir un salaire honnête pour vivre ses autres passions à côté, ça peut être sympa. Voilà. Et peut-être que je ferai une émission un jour là-dessus, sur ma chaîne. J'aimerais bien faire ça. Ouais. On appelle ça Sam Travail. Ouais. Ouais. Ou autre chose. Ouais. Peut-être qu'on fera ça un jour. Et donc là, par exemple, le secteur du jeu vidéo, c'est super chaud là, depuis quelques mois. Plus de 10 000 licenciements dans le jeu vidéo depuis janvier. Ces derniers mois, la casse sociale a été lourde dans le secteur. Alors, je suis allé voir 10 000. Je me demandais si c'était en France ou dans le monde. Et en fait, c'est dans le monde. Hein. Ces derniers mois, la casse sociale a été lourde dans le secteur. Des studios indépendants aux gros acteurs du secteur, le phénomène concerne l'ensemble des acteurs. Alors, en France, ça va à peu près. Voilà. Ça va à peu près. Mais les chiffres sont intéressants et on verra que c'est un contre-coup de la crise sanitaire où, pour la crise sanitaire, le marché du jeu vidéo a explosé. Certains studios, certaines boîtes ont embauché énormément. Bon, derrière, ça se débarrasse des gens. Je dis ça se débarrasse, que parfois, c'est brutal, très brutal. Et donc, on se penchera sur ça, quoi. Voilà. Je pense que vous connaissez un petit peu le sujet. Le jeu vidéo en galère, parole de développeur, me dit Evil Matt. Ouais. Il y a eu pas mal de licenciements chez Riot il y a peu de temps, ouais. Il y a des LGBT-phobes dans le chat, me dit Nilith. Alors, ils n'ont aucune place ici, alors. Ouais, mais j'espère que vous le savez. Riot à Berlin a licencié la moitié de son effectif. Ouais, je sais que chez Riot, notamment. Ouais, Arkane aussi. Ouais, Arkane aussi. Ils ont fermé. Ils ont pas fermé tout Arkane, hein. Mais il y a eu. On a coupé des trucs aussi, ouais. Et puis, comment ne pas aussi. Alors, ne pas dire au revoir, parce que ce qui sera très intéressant dans le dossier de l'équipe, c'est qu'en fait. Bon, Nadal a perdu. Nadal a été éliminé dès son premier match, et vous savez pourquoi, hein, puisqu'il n'était pas tête de série. Donc, au lieu de rencontrer un super champion en demi ou en finale, il l'a rencontré au premier tour. C'est comme ça, c'est la règle, et c'est normal que les règles s'appliquent à tout le monde. Et donc, Nadal, plutôt qu'affronter Zverev en demi ou en finale, il l'a rencontré au premier tour. Bon, il s'est fait sortir, hein, mais paradoxalement, l'équipe a regardé le match et a trouvé que c'était une très bonne nouvelle. What ? Défaite en 3-7, si je dis pas de bêtises, c'est une bonne nouvelle ? Et ça veut dire que il va pas s'arrêter là ? Alors ça, c'est bizarre. Alors j'en dis pas plus, voilà. Mais Mathieu a l'info, qui gère la chaîne YouTube, voilà, c'est une histoire de Jeux Olympiques, c'est une histoire de forme du moment, voilà. Et Nadal n'a pas dit son dernier mot, et d'ailleurs, il a refusé, mais ça, vous le savez peut-être, qu'il y ait une petite cérémonie, une petite teuf à Nadal, à Roland-Garros, organisé par Roland et notamment la présidente de Roland-Garros, qui est Amélie Mauresmo. Et il a refusé qu'il y ait une cérémonie pour dire merci Nadal, au revoir Nadal. Parce qu'en fait, dans sa tête, ce n'est pas terminé. Peut-être pas terminé. C'est pas terminé, parce qu'il le dit d'ailleurs. Voilà. Donc il ne veut pas faire son au revoir. Est-ce qu'il va revenir l'année prochaine ? C'est plus une histoire de Jeux Olympiques, mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Nadal peut rebondir, ouais, comme les balles exactement. Il est grand cet homme, oui, moi c'est mon joueur. Hein. Je sais que certains aiment l'élégance de Federer, que pour parler de l'ancienne génération, des stats de Djokovic et de son efficacité, moi c'est Nadal. C'est le côté, ce mental de fou, ce, ce dieu romain, le mec qui lutte contre la douleur, tout ça, moi, ça me fascine. Ouais, ça me fascine. C'est mon joueur. Voilà pour le petit sommaire. L'idée, c'est que vous ayez l'essentiel de l'actu sans être obligé de regarder, de rester 2 heures avec moi. Merci Mélissa. On va en parler tout à l'heure. Merci d'être avec nous. C'est chaud de vouloir faire une fête pour la fin de Nadal, la carrière de Nadal, alors que lui-même ne l'a pas annoncé, me dit Ivory. Exactement. C'est pour ça qu'il a dit je ne veux pas de fête. Gardez votre fête. Gardez votre fête. Ouais. Bon, bah on va lire tout ça maintenant, sachant qu'il faut que je vous laisse à 11h45, mais on a 1h15 pour tout lire. Je ne ferai pas de pause. Je vais peut-être me lancer un dernier petit café, là. Et je ne ferai pas de pause au milieu. On va lire tout ça d'une traite. Voilà, et notamment prendre un peu de temps sur le Proche-Orient, parce que ça me semble essentiel, quoi. Je pensais à un truc, là. Bonjour Samuel, je te fais un coucou en passant. Je pars cette semaine pour un road trip en cyclomoteur, en Peugeot 103, me dit Emma Lapine. Il y a Emma Lapine qui part en road trip en Peugeot 103. Mais j'ai la ref. Mais c'est dingue. Mais c'est incroyable. Non, je fume pas Eros. Non, j'ai fumé jeune, je fume plus. Je me lance un petit café et c'est go. Et on parle du Proche-Orient. Boum. On y va. Bon, je force au modérateur. Vous savez qu'il y a des sujets qui électrisent un peu plus que les autres. Ici, même si les sujets sont compliqués, même si y a des sujets qui créent de la tension, ben on ne les met jamais sous le tapis. Voilà, c'est comme ça. Et ils sont habitués. Mais j'aimerais que vous leur facilitiez le travail et que sur ce sujet extrêmement tendu qui est le Proche-Orient, vous fassiez attention aux mots que vous utilisez, que vous les retourniez dans votre tête avant de les écrire. Hein? Ok. Faites-le pour... même pas pour moi, mais pour les modos. Faites-le pour votre intelligence aussi. Vous n'allez pas être d'accord ensemble sur ce sujet. Essayez d'arriver à en parler. Merci... Merci à Love. Hein? Ok? On y va? Red Metal, merci pour le 14e mois. Le café est prêt, on y va. Quelqu'un vient de dire dans le chat, ça va être sportif. Bon, bah ça va être sportif comme ça a été sportif pour... comme pour tous les streams qui ont évoqué le Proche-Orient ici, et il y en a eu des, je ne sais pas combien, voilà, beaucoup. Let's go. C'est la une du Monde, et en fait c'est l'article qu'on a lu hier matin, mais qui s'est retrouvé dans le print l'après-midi, mais qui est extrêmement clair sur ce qui s'est passé. Israël bombarde un camp à Rafah. Un bombardement sur un camp de déplacés a fait des dizaines de morts, on va se pencher sur le bilan dans un instant, alors que la Cour internationale de justice venait d'exiger l'arrêt de l'offensive militaire. Israël poursuit son attaque meurtrière à Rafah. L'État hébreu a frappé donc dimanche un camp déplacé dans le sud de la bande de Gaza, faisant au moins 40 morts. Je pense qu'on est au moins 45 morts. Au moins. C'est peu ou prou l'article qu'on a lu hier matin déjà, qui était en ligne, mais on va le relire parce qu'il donne les infos. Des flammes dans la nuit. Des hurlements perçant l'obscurité. Les corps carbonisés et démembrés tirés d'un amas de décombres, y compris ceux d'enfants. Les images publiées dimanche 26 mai sur les réseaux sociaux par les Palestiniens de Rafah dépeignent des scènes d'horreur. Le camp de tente de Barkassat, situé dans cette ville du sud de la bande de Gaza, a été bombardé par l'armée israélienne, causant des dizaines de victimes parmi la population de déplacés qui y est installée. Longtemps épargné par les combats au sol, à défaut des frappes aériennes, Rafah est le théâtre depuis le 7 mai maintenant d'une offensive terrestre israélienne, d'une nouvelle phase dans la guerre lancée par l'État hébreu en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Spirit, merci beaucoup. Il condamne toujours, mais derrière aucun acte concret, THMS, tu as raison. Je ne peux rien dire d'autre. Le bilan du bombardement s'élevait à au moins 40 morts lundi, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, on est plutôt proche de 45 maintenant. L'endroit situé dans le quartier de Tel al-Sultan n'était pas inclus dans les zones que l'armée israélienne où l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation. A priori, c'était une zone safe. Hein? D'ailleurs, l'endroit était géré par l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les gens qui étaient ici étaient, pensaient qu'ils étaient à peu près en sécurité, quoi. L'ONG française Médecins Sans Frontières, qui a reçu plus de 15 cadavres et des dizaines de blessés dans leur clinique de fortune qu'elle gère à Rafah, s'est dite horrifiée par cet événement. Merci pour les F. Qui démontre une fois de plus qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza. Ce devait être un endroit sûr. Et en fait, ça n'en était pas un. Les tirs sur ce camp de Barkassat se sont produits un peu plus de 48 heures après que la Cour internationale de justice, hein, la CIJ, eût ordonné à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Décision suivie de quel effet ? D'aucun effet. L'armée israélienne a assumé son bombardement au nom de la lutte contre le Hamas. La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international en utilisant des munitions précises et sur la base de renseignements précis indiquant que le Hamas utilisait la zone. Qui dit ça ? L'État d'Israël, bien sûr. C'est l'armée. L'État-major qui affirme que les frappes visaient deux responsables du mouvement islamiste chargés de ses activités en Cisjordanie. C'est fou comme on parle vraiment plus de l'Ukraine comparé à la Palestine, alors que c'est tout aussi horrible. Mystérieux, je sais ce que tu veux dire. Tu parles des médias en général. Les médias en général, ça veut tout dire et ça veut rien dire. En tout cas, les médias que je vous lis, c'est-à-dire les quotidiens que je vous lis, on ne peut pas leur faire ce reproche. Parce que pour le coup, s'il y a bien des médias qui parlent du Proche-Orient, et notamment depuis la guerre, là, le début de la guerre à Gaza, enfin guerre d'ailleurs, est-ce que c'est le bon mot, l'offensive de l'armée israélienne contre les Palestiniens, la presse écrite en parle, et en parle énormément. Et du coup, je vous en parle énormément aussi. Là, on est avec Le Monde. Le bain de sang de Rafah survient alors que la pression internationale s'accroît sur Israël. Lundi 20 mai, 4 jours avant le jugement de la Cour de justice internationale, le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, avait requis des mandats d'arrêt. Alors, contre des cadres du Hamas, mais aussi contre le Premier ministre israélien. Mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense. La justice internationale, le procureur de la CPI, a émis des mandats d'arrêt contre le chef de gouvernement israélien, le ministre de la Défense. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Rien. Et on va en parler avec l'humanité. Pourquoi tout ça n'est pas appliqué ? C'est pas que la communauté internationale s'en occupe pas, c'est qu'en fait, elle prend des décisions qui ne sont jamais appliquées. Et ça, depuis des décennies. On va en parler avec l'UMA tout à l'heure. Lisons Libération. Il n'existe aucun endroit sûr dans la bande de Gaza, bon ça vous l'avez compris. Au moins 45 personnes tuées dimanche, le Premier ministre israélien a reconnu un incident tragique. 45 morts, c'est pas un incident. C'est pas ce mot qu'il faut utiliser. Merci Magique, Massis TV, pardon. Un incident, c'est moins fort qu'accident même. Le mot est tellement faible, dit Lefrobot. Genre, oups, exactement, des matins. Oups, 45 morts, des civils, des hommes, des femmes, des enfants. Incident, merde. Dans un camp de réfugiés, comme le dit John, de déplacés pour être précis. C'est pas que les mots sont faibles, c'est que les mots sont insultants même, choquants. Enfin, il n'y a pas de mots en fait pour qualifier ces mots-là. Quoi. Un pas de plus dans l'horreur, écrit Samuel Ravi Regna. Dimanche, dans la soirée, l'armée israélienne a bombardé le camp de déplacés. Hein, de Barkassat à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, aussitôt les images de l'attaque ont inondé les réseaux sociaux. Vision d'épouvante, des cadavres brûlés, des corps d'enfants gisant au sol, des tentes incendiées, du sang, des larmes, des hurlements de terreur. Bilan établi par les autorités locales, au moins 45 morts qui s'ajoutent aux plus de 36 000 Palestiniens tués. 36 000 Palestiniens tués dans l'enclave depuis le début de l'opération militaire israélienne lancé en représailles à l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre. 35 000 Palestiniens, selon les chiffres du ministère de la Santé à Gaza, contrôlés par le Hamas. Mais des chiffres qui, globalement, sont confirmés par les ONG. Hein. Quelques 250 personnes, là, dans cette attaque-là, seraient blessées par ailleurs, souffrant de graves brûlures. Nous avons vu des corps carbonisés, démembrés. Nous avons vu des cas d'amputation, des enfants blessés, des femmes, des personnes âgées, a rapporté un représentant de la défense civile. Un massacre atroce, a jugé la présidence palestinienne. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a finalement reconnu lundi, dans la soirée, que la frappe de ses troupes contre le camp était un incident tragique. Il y a Mos qui écrit « Salut Sam, je voudrais te remercier de parler de Rafah. Je suis de cette majorité silencieuse de base, mais là, en ayant BFM sur le côté où ça parle des pluies diluviennes du mois de mai et pas de Rafah, c'est dépitant. J'ai une question pour toi. Tu penses que la presse tradie est bridée en ce moment ? Toi qui étais un peu dedans, j'aimerais avoir ton avis. Merci pour ton contenu. » Liamos, ça n'engage que moi, mais voici mon explication. Pourquoi BFM parle de la pluie plutôt que de Rafah en ce moment ? L'explication, elle est toute bête. Elle est économique. BFM est une chaîne qui vit de la publicité et qui, comme d'autres chaînes, a le regard braqué sur les audiences. Et à tort ou à raison, BFM pense qu'ils font plus d'audience quand ils parlent de la pluie en France que du Proche-Orient, ce conflit qui dure depuis au moins 1948, pour pas plus, tout simplement. Voilà, c'est aussi bête que ça. Est-ce que BFM se trompe et qu'il ferait autant d'audience en parlant du Proche-Orient, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est leur constat. Voilà, c'est la réponse. Ou alors, certains estiment que c'est peut-être aussi pour ne pas fâcher leur audience. Voilà. Moi, je pense qu'elle est bêtement économique, en fait. Après, je pense qu'ils en parlent quand même de... Bon, moi, je ne regarde pas les chaînes d'info, hein, mais je pense qu'ils en parlent, hein, c'est pas impossible. LCI est plus international, ouais. France Info aussi, je pense. On continue. Gaza est devenu l'enfer sur Terre. Les familles continuent de chercher refuge pour tenter d'échapper à la guerre, mais il n'existe désormais aucun endroit sûr dans l'enclave, a déploré l'agence de l'ONU sur place. Gaza est devenu l'enfer sur Terre. Les familles continuent de chercher refuge pour tenter d'échapper à la guerre, mais il n'existe désormais plus aucun endroit sûr. Les Palestiniens ont été Les Palestiniens de Gaza ont été déplacés par centaines de milliers pour fuir les bombes israéliennes. On leur dit allez là parce que sinon vous allez mourir, et ils vont là et ils meurent. Voilà ce qui se passe. Ouais. Bon, ça c'est Libération. On ne peut pas reprocher aux journaux de ne pas en parler. Énorme dossier dans Libération, c'est la une du monde, c'est aussi la une de l'humanité. Alors quand on dit les médias n'en parlent pas, peut-être que les médias que vous consommez, mais les médias que je consomme, moi, ils en parlent depuis des mois. Massacre à Rafah, l'impunité jusqu'où, s'interroge l'humanité. L'humanité qui, historiquement, a toujours été un journal qui a soutenu la cause palestinienne, il faut le savoir. Massacre de Rafah, les pays occidentaux au pied du mur. L'UMA qui rappelle que l'application de l'ordonnance de la Cour internationale de justice exigeant l'arrêt de l'intervention à Rafah relève de la communauté internationale. Hein ? La justice internationale, depuis des décennies, condamne ce que fait Israël au Proche-Orient, mais sauf que ces résolutions ne sont jamais appliquées. C'est aussi simple que ça. L'armée israélienne affirme donc avoir frappé un complexe du Hamas dans lequel opéraient d'importants terroristes et ajoute que la frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international. C'est ce que dit l'armée israélienne. Et l'humanité dit, référence au droit international, qui ne manque pas de sel, de la part des autorités israéliennes, alors qu'elles font la sourde oreille aux ordonnances de la Cour internationale de justice. Vendredi, la plus haute instance juridique de l'ONU avait ordonné aux autorités israéliennes d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Vous savez ce qui s'est passé. Question. du procureur de la Cour pénale internationale. Tout est dans cette question. Merci beaucoup, Yann. Merci pour le 32e mois. Merci, The Voyageur, pour les bits. Question du procureur de la CPI. Ouvrez les guillemets. Voulons-nous vivre dans un monde où le droit est appliqué de manière équitable ou dans un monde où nous fermons les yeux et détournons le regard en raison de nos allégeances? Voilà. C'est la justice internationale qui pose la question. Ce qui revient à poser dans le même temps la question de l'application des mesures décidées par la justice internationale. Si Tel Aviv, si Israël ignore les ordres de la justice internationale, c'est qu'Israël pense pouvoir bénéficier d'une impunité qui est effective depuis 76 ans. Hein? Parce que ça dure depuis, effectivement, au moins cette durée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté depuis 1948, c'est la création de l'État d'Israël, 229 résolutions. 229 résolutions, merci José Lafusé, 229 résolutions sur la colonisation illégale des territoires, sur le statut de Jérusalem, sur le retour des réfugiés palestiniens. Aucune de ces 229 résolutions n'a été appliquée. Aucune. No comment, comme dit Nibata. Voilà. Les ordonnances de la Cour de la justice internationale qui tranchent les différents entre États sont juridiquement contraignantes, mais elle n'a pas les moyens de les faire respecter. Hein? Donc il revient aux États membres de l'ONU de se faire garant de la mise en application de ces décisions. Quelqu'un me demande quelle solution. Bah voilà, l'UMA est en train de dire. C'est aux États membres de l'ONU, en fait, de faire appliquer les décisions de la Cour de justice internationale. En l'occurrence, il s'agit maintenant de prendre les mesures coercitives à l'encontre d'Israël, comme ça a été le cas, par exemple, dit l'Humanité, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le 24 février 2022, l'Union européenne avait immédiatement réagi, mais s'agissant d'Israël, la plupart des pays traînent des pieds. Comme si cet État se trouvait au-dessus des lois humaines. L'Humanité ne dit pas que l'État d'Israël ne doit pas exister. Hein. L'Humanité ne nie pas l'existence de cet État, quoi, comme le font certains. Quoi. Mais l'Humanité dit qu'Israël ne doit pas être au-dessus des lois et des lois internationales. Et qui peut dire que l'Humanité se trompe? Personne. Évidemment. Oui, mais parfois, Yacine, il faut rappeler les évidences. Hein? Rappelons que, normalement, un État palestinien devrait exister aujourd'hui aux côtés de l'État d'Israël. C'est ce que prévoit tout ce qu'a décidé la communauté internationale depuis 1948. Et ça n'a jamais été appliqué. Voilà. Alors après, les responsabilités sont multiples. La division du camp palestinien, d'abord, hein, entre autorités... Enfin, pas d'abord, mais... C'est-à-dire que c'est un faisceau de responsabilités. Alors évidemment qu'Israël est le premier responsable de ça, et les gouvernements israéliens. Mais les Palestiniens sont divisés aussi, politiquement parlant. Hein. Vous savez que l'autorité palestinienne, notamment, et le Hamas se tirent la bourre aussi, donc ça n'a pas beaucoup aidé. Il y a aussi l'impuissance ou la non-volonté des États du reste du monde, et notamment occidentaux, de s'en occuper. Voilà. Ce conflit dure depuis au moins 1948, même si ses racines sont bien plus anciennes. Et si, moi c'est mon sentiment, puisque vous me demandez peut-être qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a quelques semaines, puisqu'on en parle très régulièrement ici, un spécialiste des questions internationales répondait à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on va, jour après jour, semaine après semaine, on va se dire, ah là, c'est grave, c'est une catastrophe, comment se fait-il qu'on soit arrivé là? Moi, ce sujet, ça fait 30 ans que j'en parle dans les différents rendez-vous d'information dont j'ai eu la charge, mais à tel point qu'à une époque, jeune journaliste, je suis allé sur place d'ailleurs, parce que non pas pour un reportage ou pour un documentaire ou quoi que ce soit, j'avais du temps de vacances, et je me suis dit, j'étais jeune journaliste à ITL, ce Proche-Orient dont on parle tant, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attentats, notamment contre Israël, voilà, qui étaient menés par des Palestiniens, notamment kamikaze, donc on en parlait beaucoup, et je me suis dit il faut que j'aille sur place en fait pour comprendre en fait, c'est trop compliqué. Et j'étais allé sur place et j'étais allé voir des confrères journalistes qui vivaient là-bas, qui étaient correspondants envoyés spéciaux, et j'étais allé voir des Israéliens, et j'étais allé voir des Palestiniens, et j'étais allé dans les camps, voilà, et je m'étais un peu promené comme ça juste pour moi, pour comprendre, voilà. Ben, et c'est là où j'avais compris aussi que le sujet était infiniment compliqué, c'est parce que j'avais rencontré des gens qui étaient persuadés des deux côtés, en fait, d'avoir raison, quoi. Et parfois des gens de bonne volonté, mais avec des jeunes Israéliens qui disaient que, qui vivaient dans la peur, parce que c'était l'époque où il y avait beaucoup d'attentats dans la rue. Tu pouvais pas faire 10 mètres à Jérusalem sans qu'on te dise, bah voilà, là ça a pété mardi, là ça a tapé mercredi, là ça, c'est l'arrêt de bus qui a pété, tout ça. Et donc des gens qui disent, nous on vit dans la peur, dans la terreur, on voudrait juste que l'État d'Israël puisse vivre en paix, quoi. T'entendais ça? Et puis tu allais dans les territoires et là tu rencontrais des familles et des jeunes Palestiniens qui disaient, mais nous, notre vie est totalement empêchée, on ne peut rien faire. On ne peut pas bouger, on ne peut pas voyager, on ne peut pas étudier. Voilà, le moindre acte de la vie quotidienne, travailler, se déplacer pour aller travailler, hein, il y avait des checkpoints partout, étudier, voilà, tout simplement construire sa vie, son avenir, c'est juste impossible pour nous, tellement difficile. Voilà. Donc ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Moi je vous parle d'un truc, c'est un constat que j'ai fait il y a 20 ans, quoi. Rien n'a changé. Moi mon sentiment aujourd'hui, c'est que si la communauté internationale s'était correctement, sérieusement occupé de ce sujet, pour une médiation, puisque vous voyez que vous avez deux camps qui sont quasiment irréconciliables, quoi, et seule une médiation extérieure pouvait résoudre le problème, si la communauté internationale s'était vraiment retroussé les manches, on aurait trouvé une solution. Merci beaucoup, Nico LGR, pour le message. Voilà, ça, c'est mon sentiment. Et il y a quelques semaines, on a lu l'édito d'un spécialiste des questions internationales qui disait ça, qui disait « La seule solution, c'est que la communauté internationale... » Et alors, il disait précisément « Les grandes puissances diplomatiques, États-Unis, Chine, Union européenne, bien sûr, et pays arabes, voilà. La seule solution, c'est une médiation totale, globale, de la communauté internationale. » Dans le même article, il disait « Il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive. Il y a peu de chances que la communauté internationale ait enfin le courage de le faire, mais c'est la seule solution. » Voilà. Ça a presque réussi avec les accords d'Oslo. Ouais. Tiklem le rappelle, ça a presque réussi avec les accords d'Oslo, puisque, on doit aussi le rappeler, dans les deux camps, arabes, palestiniens, israéliens, depuis toujours, il y a aussi eu des partisans de la paix. Il y a aussi eu des gens qui tendaient la main à l'autre camp pour vivre en paix, depuis toujours. Voilà. Mais il y a toujours eu aussi des extrémistes qui ont essayé de faire capoter ce processus de paix. Voilà. Il y a eu notamment l'assassinat de Yitzhak Rabin, hein, qui a été commis par un extrémiste israélien. Et donc il y a eu des bonnes volontés de part et d'autre. Mais les bonnes volontés ont perdu ce match, quoi. Ce qui est fou et paradoxal, c'est que dans les victimes des attentats du Hamas, là, vous savez que qui est à l'origine de ce qui se passe là, la plupart des victimes étaient installées dans des kibbutz, dans Israël, mais juste à côté de la bande de Gaza. Et en fait, la plupart des gens qui ont trouvé la mort, c'était des gens de gauche, des pacifistes, des gens qui historiquement s'étaient engagés justement pour la paix avec les voisins palestiniens et arabes, quoi. Voilà. Voilà. Bon, c'est le bordel, quoi. En tout cas, le dossier du Mali est vraiment intéressant parce qu'il rappelle que, en fait, la communauté internationale, en tout cas la justice internationale, s'occupe du sujet depuis très longtemps. C'est juste que les résolutions ne sont juste pas appliquées, quoi. Voilà. Ah ouais. Non, en fait, Amser, tu confonds en fait les kibbutz illégaux et les colonisations juives. Tu confonds deux choses qui ne sont pas les mêmes choses, en fait. On n'était pas dans la colonisation juive illégale. C'était des gens qui étaient là depuis très très longtemps, en fait. Il faut que tu ailles voir la carte. Il faut être précis. Sinon, on ne comprend plus rien. Victor Lapoutrelle, merci beaucoup pour le deuxième mois d'abonnement. Allez voir plutôt les atlas de géopolitique et les livres d'histoire plutôt que Twitter pour comprendre un sujet aussi compliqué. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment être super précis. On en reparlera, comme on en parle depuis des semaines et des mois et des années. sur Twitch ou dans les différents rendez-vous d'actu que j'ai pu avoir la chance de présenter. Et comme d'autres, on parle depuis longtemps et on en reparlera. Et puis jusqu'un jour où enfin le camp de ceux qui veulent que ça fonctionne sera plus fort que le camp de ceux qui veulent que ça ne marche pas, comme actuellement le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'actualité ? Voilà. @neo dit c'est compliqué. Putain, mais Sam, il y a des gosses qui meurent, c'est pas une question de politique. Là, c'est simplement avoir de l'humanité. @ Let's go. Vas-y, dis-moi. Je viens de t'expliquer pourquoi, malgré la bonne volonté d'une partie de chaque camp et d'une partie de la communauté internationale, voilà, la cam a bug, ouais. C'est à cause de @. Je vous la réactiver. Hop. Bougez pas. Hop. Hop, désactivé, activé. @. Bien sûr que c'est compliqué, ça ne suffit pas quand il y a des morts d'enfants. Vas-y, @, fais péter la solution. Vas-y, dis-moi. Moi, ça fait 30 ans que je me pose la question. Vas-y, @. Moi, ça fait 30 ans que je... Voilà. Dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai pas la réponse. Si, je viens de vous dire, comme c'est ce spécialiste des questions internationales, la réponse doit venir de la communauté internationale et qu'elle ait le courage de le faire un jour. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes après, à part ça, @ Au-delà de l'émotion, quoi. C'est impossible. Peut-être effectivement du boycott, peut-être du désinvestissement, peut-être des sanctions, comme le dit Sisyphe heureux. Ouais. Mais encore là, ça fait appel au courage des pays de la communauté internationale et des pays occidentaux et des pays riches, courage que jusqu'ici ils n'ont pas eu. Quoi. Ouais. C'est vrai. Comme le dit Nabil, chaque pays doit couper les liens avec Israël, ne plus financer son armée, des sanctions. Quoi. Pourquoi j'ai pas d'article là-dessus, là ? On devrait avoir des articles sur ce sujet. On en aura peut-être dans les prochains jours. On en reparlera. Bon. Comme on en a déjà parlé et comme on reparlera, hélas. Quoi. Je rêve qu'un jour on arrête d'en parler puisque ça voudra dire que le problème aura été réglé. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'actualité ? Peut-être. Le chat est en feu, c'est normal. Le chat est en feu sur ce sujet, c'est normal. Vous ne pouvez être qu'en feu sur ce sujet. Comment rester apaisé sur un sujet comme celui-ci ? C'est impossible. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? Peut-être. Voilà, de temps en temps, il y a des petits coins de ciel bleu dans le ciel de l'actualité chargé de nuages, avec ses premiers pas vers une taxation mondiale des milliardaires. C'est un article dans La Croix, page 8. On y va. Réunis à Stresa en Italie, les ministres des Finances du G7 ont convenu d'entamer un travail sur une taxation minimale des individus au niveau international. On parle des individus très très riches, hein. Les milliardaires. Nous nous efforçons d'accroître nos efforts en vue d'une imposition progressive et équitable des personnes physiques. Ça, c'est la petite phrase. Perdu dans un très long communiqué qui a été publié samedi à l'issue d'une réunion des ministres des Finances et du G7. Petite phrase, mais qui a le mérite d'exister. Il y a Fabrice qui dit les 1%. Ah non, c'est même pas les 1%, c'est plutôt les 0,1%. Voilà, tu vas voir. Car si les grands argentiers mondiaux réunis en Italie se sont surtout préoccupés de l'Ukraine et de la guerre commerciale avec la Chine... C'est marrant, on ne parle pas du Proche-Orient. Ok. L'idée d'une taxe minimale des milliardaires poussée par la France fait son chemin. Poussé par la France. C'est français tout ça. Let's go. Enfin, c'est pas que français, vous allez voir. Est-ce à dire qu'après la taxation des géants du numérique, puis celle des entreprises, Un troisième pilier de la réforme du système fiscal mondial va voir le jour. Bon, ce serait formidable, mais on va voir. Cela paraît une montagne très haute à gravir, coucou Inox, mais on m'avait dit exactement la même chose sur la fiscalité numérique. Et nous y sommes arrivés. On m'avait dit la même chose sur la fiscalité minimale, impôt sur les sociétés, nous y sommes arrivés. Donc on y arrivera également sur ce sujet. Qui dit ça? C'est Bruno Le Maire, le ministre français des Finances. Il faut dire, et tant mieux, merci beaucoup André Aléo pour le 17e mois, merci Jim pour le Prime. Il faut dire que les opinions publiques supportent de plus en plus mal que les plus fortunés échappent à l'impôt. Et c'est tant mieux. En France, une étude de l'Institut des politiques publiques avait ainsi montré que si le taux de prélèvement montait progressivement jusqu'au 0,1% des plus riches, donc en France, il y a une étude qui montre que globalement, le taux de prélèvement, le pourcentage qu'on prend des revenus, augmente progressivement jusqu'à 0,1% des plus riches. Après, ça redescend. Donc, on parle vraiment d'une toute petite fraction de la population, on parle des milliardaires. En gros, jusqu'à 0,1% des Français les plus riches, ça augmente. Après, ça descend. Donc, on parle des ultra-ultra riches, et eux, ils payent moins d'impôts que les riches. Qu'est-ce qui se passe? Parce que par un jeu tout à fait légal d'hébergement des revenus du capital dans des holdings. C'est la loi, c'est permis. Donc, il y a un moment, tu es tellement riche que tu peux te payer les avocats, les comptables, les experts comptables, tous les gens capables de te mettre en place des trucs qui sont assez compliqués sur un plan juridique, mais qui sont légales, voilà. Pas forcément morales, mais légales. Et là, on parle non pas des 1%, non pas des 0,1% des plus riches, mais des 0,01%. 0,01% d'ultra-riches. Hein. Ils sont tellement riches qu'ils peuvent sortir du système. Non, ils ne sont même pas hors système, trop fou. C'est juste qu'ils ont les moyens financiers de payer les gars qui vont aller chercher les petites failles dans la loi. On ne sort pas de la loi, on exploite un petit peu les zones un petit peu floues pour faire des trucs qui vont bien au niveau de leurs sous. Quoi. Voilà. Donc le 0,01% d'ultra-riches, voilà. Et là, à partir de là, ça baisse. Voilà. Le taux d'imposition pour le 0,01% est à 38%, alors que les gens un peu plus riches payent plus. Et pour 75 milliardaires, eh bien, ça tombe à 25% d'imposition seulement. Conscient du problème, Bercy estimait toutefois difficile d'agir sans concertation internationale, tout simplement parce que ces grandes fortunes sont extrêmement mobiles et que Bercy dit si on taxe uniquement au niveau français, ils vont tout simplement bouger leur holding. Voilà, ils vont passer une ou deux frontières. Et donc, s'il n'y a pas une action, ce qui est assez simple à comprendre, bien sûr, Alain. Comment il s'appelle, c'est Alain? Ah, appelons en question pour un champion, je ne peux pas, Nico Du, parce que je ne peux pas passer des messages personnels en question pour un champion, t'imagines? Il y a un million et demi de téléspectateurs tous les soirs sur question. T'imagines si j'avais un million et demi de messages perso à faire passer? Je pourrais plus poser de questions. En revanche, Nico, je peux faire coucou à Alain, ton papa, dans ce chat tout de suite et le remercier de regarder question pour un champion. Ça, je peux le faire. Alain, coucou. Dame Sonia, merci pour le cinquième mois. Donc, il faut agir au niveau international et la France se veut optimiste et se félicite de voir ses partenaires accepter de travailler à ce troisième pilier fiscal international, d'autant plus que grâce à une meilleure identification des propriétaires de biens immobiliers et des bénéficiaires de holding, le travail de l'OCDE permet une plus grande transparence et une meilleure coopération entre administrations fiscales qui, à terme, pourra aussi servir à la taxation des ultra-riches. Voilà. Il n'a pas Twitch, hein ? Il n'a pas Twitch ? Ah bah tu pourrais lui montrer le replay. Ah, c'est Nico qui dit « Mon papa, il n'a pas Twitch ». Nico, tu prends ta souris, tu cliques sur Google, tu tapes YouTube Samuel Etienne, tu as tous les replays, tu vas à 1h19 de ce stream, demain, tu fais pause, tu montres à ton papa, hey, Nico, bordel, il n'a pas Twitch mais c'est pas grave, t'as un ordinateur Nico, t'as Google, t'as YouTube. Ça va aller. Tu veux pas que je passe faire du repassage à la maison? Tu veux pas que je vienne faire des lessives? Nico, bordel! Ok, Samuel, quand même! Nico! Mais merde, quoi! Tirez-vous les doigts du cul un peu! Bon, alors, très jolie série dans La Croix. sur tous les reproches qu'on fait à l'Union européenne. Parfois des reproches fondés d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'être des Européens béats, voilà, et l'Europe n'est pas exempte de reproches. Mais parfois, il y a un peu des idées reçues, et La Croix part sur une longue série, sur 10 jours, voilà, pour les questions qui fâchent. Alors hier, par exemple, il y a « Mais pourquoi la France donne plus d'argent à l'Union européenne que l'Union européenne donne de l'argent à la France ? C'est un scandale, il faut sortir de l'Union européenne. » Bon, ça, c'est un truc qu'on a entendu à une époque. Bon, de moins en moins, puisqu'il y a de moins en moins de partis qui officiellement se disent opposés à l'Union européenne. À une époque, le Rassemblement national voulait sortir de l'Union européenne. Le Rassemblement national voulait sortir de l'euro. Et puis Marine Le Pen a changé d'avis. Voilà. Elle ne veut plus. Pourquoi ? Vous irez lui demander. En tout cas, elle a changé d'avis. Les accords de libre-échange sont-ils mauvais pour les Européens ? Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Bah, c'est comme souvent, c'est un peu des deux. Et oui, il y a un peu des deux. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Les accords de libre-échange noués par l'Union européenne avec le reste du monde ont provoqué ces derniers mois des levées de boucliers. Hein. Les agriculteurs, vous avez entendu ça. La simple évocation de leurs acronymes, CETA, Mercosur pour les plus connus, suscite le débat. Facilitant les échanges commerciaux, ces accords internationaux sont accusés d'avoir généré une forme de concurrence déloyale, en forme de concurrence déloyale, déstabiliser les filières européennes, notamment les éleveurs hein, en France. Mais dans les faits, qu'en est-il ? Il n'y a que Asselineau qui veut sortir de l'Union européenne, je crois. Ah bah c'est bien. Oui, bah oui, je crois qu'il n'y a plus que Asselineau qui veut sortir de l'Union européenne. Mais c'est bien, je trouve, parce que moi, je pense aux gens qui veulent sortir de l'Union européenne en France. Ils peuvent même plus voter pour le RN. Il faut penser à ces gens, je veux dire, qui disent, qui sont persuadés qu'on serait mieux tout seul, la France. Il y a plus grand monde pour qui voter. C'est quand même... moi, je pense un petit peu... Je pense aussi à ces gens, quoi. Et ils ne peuvent plus voter RN. Alors, ils vont voter pour qui ? On me dit, François Asselineau. Ah, il y a Philippot aussi. Bon, voilà. C'est, bah, hein, voilà, hein. Bon, bonne nouvelle. Vous avez encore des gens pour qui voter. C'est quand même très rassurant, quand même. Parce que moi, je... Bon, bref. Prenons le CETA, par exemple. Qu'une majorité de sénateurs français a refusé de ratifier lors d'un vote en mars 2024. Les sénateurs ont dit, nous, le CETA, on le ratifie pas. Bon, sauf qu'il a été signé en 2016. Bon, c'est pas grave. Par l'Union européenne et le Canada. C'est un accord qui n'a pas conduit à l'arrivée massive en Europe de bœufs canadiens et encore moins de bœufs aux hormones, hein, puisque c'est ce qui était dénoncé. Les bêtes ainsi traitées sont exclues de l'accord. Bon. Pour pouvoir exporter leur viande, les éleveurs canadiens doivent investir dans les systèmes de production sans hormones. Bon, ça ne s'est pas produit. De ce fait, les contingents fixés par l'accord, autrement dit la quantité de marchandises exemptées de droits de douane, n'ont jamais été remplis. Ah bon. Donc on n'a finalement pas eu de bœufs canadiens. Selon les données, on a des chiffres, de la Direction générale du commerce et de la Commission européenne, le Canada pouvait en 2021 exporter dans ce cadre 29 000 tonnes de bœuf et de veau. Ils ont utilisé 3% de ce contingent. De leur côté, les Européens pouvaient exporter en 2021 13 000 tonnes de fromage et 1 400 tonnes de fromage industriel. Eh bien, ces contingents ont été exploités quasiment à plein. Donc l'Union européenne s'est plutôt bien débrouillée là. Voilà. Bon. Après, c'est du cas par cas. Il y a des accords où ça se passe moins bien. Et La Croix souligne que l'analyse ne peut pas s'en tenir qu'aux chiffres, mais il faut aussi se pencher sur l'ensemble des enjeux. Un exemple, en Amérique du Sud, certains antibiotiques restent administrés aux bêtes comme les activateurs de croissance. Voilà. Et ça, c'est interdit chez nous, sauf que les contrôles menés par les analystes ne sont pas infaillibles. Donc là, La Croix dit, attention, il y a quand même des accords où il y a des trucs qui ne sont pas terribles. Par ailleurs, un accord n'entraîne pas les mêmes répercussions dans tous les États membres. En témoigne celui conclu récemment entre l'UE et Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande va exporter davantage d'agneaux congelés. Or, la France se distingue au sein de l'UE parce que justement, elle produit que 50% de la viande ovine qu'elle consomme. Et du coup, cet accord pourrait entraver le processus de maintien de l'élevage ovin en France. Voilà. Globalement, ça passe bien, mais on voit bien que parfois, pour telle ou telle filière, tel ou tel pays, eh bien, ça peut être très négatif. Mais, dit encore La Croix, tout ne peut pas se résumer au volet agricole. Le CETA, par exemple, permet d'avoir, pour l'Union européenne, un accès sécurisé à des matières premières stratégiques, comme le lithium, minerai incontournable pour l'industrie de la batterie, hein, souligne une économiste. La Commission européenne souligne que les relations avec Ottawa ont facilité la tâche aux Européens lorsqu'il a fallu couper les ponts énergétiques avec la Russie, pour compenser les pertes en matières premières critiques que fournissait Moscou, pétrole, mais aussi engrais, mais aussi nickel. L'UE a augmenté ses importations depuis le Canada, Solden, merci pour les bits. Dame Sonia, merci pour le 5e mois. Majadoc, merci pour le Prime. Andrea Léo, merci pour le 17e mois. Autant de raisons qui poussent Bruxelles à vouloir continuer les négociations pour des accords commerciaux. Voilà. Encore une fois, même si c'est un discours qui peut fatiguer, il y a l'ego qui dit on a un visuel rogné sur le stream, on ne peut pas tout lire. Oui, c'est exprès, c'est pour que vous m'écoutiez. Voilà. Parce que sinon, vous avez coupé le son, vous allez juste lire les articles. Et en fait, moi, je veux absolument vous imposer ma voix. Voilà. Très bonne blague de Snowboots qui dit est-ce que la viande ovine, c'est par exemple le coq ovin ? Ça, je valide ça. Ça, c'est validé. Voilà. Donc la Croix nous dit voilà, le diable se cache parfois dans le détail, il faut faire attention aux impacts sur les filières, mais que globalement les accords de libre-échange sont globalement plutôt positifs selon la Croix. Oh, un petit plaisir. Bon, sauf pour les partisans de Marion Maréchal, ne levez pas le doigt les partisans de Marion Maréchal, vous avez tout à fait le droit d'être là, mais il ne faut pas non plus déconner. Je plaisante. Blague à part, si vous êtes vraiment un partisan, une partisane de Marion Maréchal, là, vous allez vous mettre en colère. Là, parce que Libération nous fait un petit billet, un petit papier. Là. Un petit coq au vin, là, Samira Sedira, chroniqueur politique, là, sur une sortie de Marion Maréchal, on va se régaler. Là. On va se régaler. Transphobie. Contre une primée à Cannes, Marion Maréchal, triste soldate réactionnaire. Marion Maréchal, écrit Libération ce matin, jamais avare de saillie fielleuse, de fiel. Il y a Akmegirl qui dit ça, mais est-ce qu'on pourrait pas faire une matinée, Étienne, des bisounours une fois par mois avec que les trucs positifs, mon petit cœur te remercie. Tu sais quoi ? T'as complètement raison, ouais. T'as complètement raison, ouais. Marion Maréchal, jamais avare de saillie fielleuse, s'est vendue ce week-end d'un tweet transphobe. Moi aussi, je vois dessous, je t'aime. En apprenant que l'actrice mexicaine transgenre Carla Sofia Gascón avait reçu un prix d'interprétation féminine à Cannes pour son rôle dans le film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Et donc, Marion Maréchal a déclaré c'est donc un homme qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Voilà. A écrit la candidate aux européennes. Bon, déjà pour Marion Maréchal, une femme doit être une mère, sinon c'est pas vraiment une femme. Voilà. Ouh, ça pique, hein. Bon, ce que la leader d'extrême droite semble n'avoir pas tout à fait compris, c'est que le prix d'interprétation féminine décerné cette année par le jury cannois est un prix plus féminin que jamais, puisqu'il récompense quatre actrices, Zoé Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz et Carla Sofia Gascón. À noter, puisque la maternité s'invite ici de manière incongrue, comme si femme et mère étaient... forcément indissociable, c'est ce que je vous disais. Je ne pense pas qu'on soit obligé d'être mère pour être femme. J'en suis même sûr. À noter, dit Libération, que Carla Sofia Gascón est aussi maman d'une fille de 13 ans. Voir un effacement là où la visibilité a été multipliée par 4, c'est assez curieux, écrit Libé. La vice-présidente exécutive du parti Reconquête auprès d'Éric Zemmour, puisque vous savez qu'aujourd'hui, Marion Maréchal est du côté d'Éric Zemmour, n'aurait pas dû se jeter sur son téléphone sans réfléchir. Comme quoi on peut avoir des idées ultra-conservatrices et vivre avec les défauts de son temps. C'est joliment écrit. Fais attention Sam, ça tire à la vandale dans le chat. Elio, comme si ça me faisait peur. Je me fais tirer dessus à la vandale tous les soirs. Hein. Alors me faire tirer dessus à la vandale le matin, rien à foutre. Quoi que Madame Maréchal puisse en dire, Carla Sofia Gascón est bien une femme. Et à un moment, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, il faut réfléchir. Carla Sofia Gascón est bien une femme. Point. 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 Sur ce point, il n'y a pas matière à discuter des libérations. Bah oui. Bah oui, évidemment. La liberté individuelle n'est pas un trésor collectif et l'identité se conquiert seule. Nous n'avons donc rien à en dire du moment qu'elle ne se conquiert pas au détriment des autres. Il suffit d'écouter le discours de Carla Sofia Gascón pour comprendre que le processus qui mène à la conquête de soi est un interminable chemin de douleur, semé d'embûches, de larmes et de sang. Non, ça n'est pas une femme trans, c'est une femme, croit Samuel. Et tu vas voir pourquoi je dis ça. L'actrice de 52 ans qui a entamé sa transition à 46 ans ne le sait que trop puisqu'elle a dédié son prix à toutes les personnes trans qui souffrent tant. Sans oublier d'ajouter, je veux que ces personnes arrivent à croire qu'il est toujours possible de s'améliorer. Marion Maréchal n'aime ni le changement, ni les améliorations. Comme quoi, on peut très bien être jeune et n'aimer regarder que derrière soi. On se souvient, XX ou XY chromosome, dit BZN. Je crois que tu confonds le sexe et le genre. C'est marrant, il y a des gens qui n'ont pas compris ça encore. C'est fou, ça. C'est marrant, vous, en 2024, vous n'avez pas encore compris que ce n'est pas la même chose. Enfin, c'est cool. Marion Maréchal n'aime ni le changement ni les améliorations, comme quoi on peut très bien être jeune et n'aimer regarder que derrière soi. On se souvient encore de sa réaction épidermique à l'annonce d'une éventuelle participation de Aya Nakamura, pardon, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. L'artiste ne chanterait pas en français, selon Marion Maréchal, et de préciser qu'elle aurait préféré quelqu'un qui sache manier la langue de Molière. Voilà. J'ignorais que la langue de Molière se pratiquait encore, des libérations rigolantes, puisqu'évidemment personne ne parle plus la langue de Molière, puisque si on parlait tous la langue de Molière, qui a beaucoup évolué depuis, eh bien on ne se comprendrait pas. Si c'était le cas, écrit Libé, Madame Maréchal n'y peinerait pas grand-chose. C'est normal, le lent écoulement du temps a fait son œuvre et le français a beaucoup changé depuis Molière. Qu'il n'y ait rien à faire pour empêcher le temps de s'écouler, c'est précisément ce qui semble préoccuper les droitards de l'extrême. Or, on sait à quel point il est difficile pour ces soldats de l'immobilisme d'assister impuissants au bouleversement du monde. Pour eux, advenir à soi est un non-projet. C'est même une offense faite à l'ordre des choses. Chacun a une place bien assignée, nul ne devrait en sortir, tel est le leitmotiv. L'extrême droite et la négation même de la créativité de l'individu, c'est un appel à la permanence, à l'immutabilité. Restons ce qu'on a fait de nous et surtout, évitons de devenir ce que nous sommes. Quitte à devenir fou dans un corps, une vie, un destin qui ne nous ressemble pas. Plus triste tu meurs. Et puisqu'il n'y a que Carla Sofia Gascon pour parler de mieux de ce qu'elle a vécu, laissons-lui le mot de la fin. Une personne trans, c'est une personne qui vit une transition. Une fois qu'elle l'a traversée, elle n'est plus en transition. Elle est ce qu'elle est. Carla Sofia Gascon, et ça c'est moi qui l'ajoute, est une femme. Point. Ah, les modos, je vous régale hein, en ce moment hein, avec mes petits sujets là. Merci Anonyme31, merci Clamakine, merci Nathien LB, merci Frenchio Guillaume, merci Ephaisto78, merci Julo18, merci Broubro06, merci Moulbit, merci Nightbot, merci Original Pimous, merci Pépin Camille, merci Sarah Molly, merci Sugarfrog, merci VOD Samuel, merci Mathieu. Ah, et merci à Boubou et à Pépin aussi qui sont dans le chat. Voilà, je ne suis pas d'accord. Tu as le droit de le dire BZN59. Cette chaîne, elle est là pour ça. Mais tu l'exprimes correctement. Tu ne me dis pas, va te faire foutre Samuel, t'as rien compris à la vie, tu dis, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr, mais tu as tout à fait le droit de le dire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, notre société a un effort à faire de compréhension par rapport à ce qu'est le genre, ce qu'est le sexe, comment nous devons respecter les personnes trans, etc. Mais ici, on est là pour en parler. Voilà. Let's go, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Bien sûr KML, bien sûr. Voilà, comme le dit Moulbit, vous pouvez être en désaccord, mais ne vous insultez pas, c'est tout. Soyons adultes, exactement. Bien sûr BZN, tout à fait d'accord. En fait, ici, je le rappelle, bon, je ne professe pas une grande sympathie pour les idées d'extrême droite, vous le savez. Depuis toujours, voilà, depuis que je suis en âge de voter, c'est comme ça. Mais je n'interdis pas cet espace de discussion aux gens qui portent ces idées et ces valeurs-là. Parce que je pense que le pire qui puisse nous advenir, c'est ne plus pouvoir en parler, en fait. Je pense que la fin de tout, c'est quand des gens qui s'expriment dans un cadre démocratique et légal n'arrivent plus à se parler, quoi. Et moi, ça me dérange pas du tout que vous critiquiez les idées que j'exprime, que vous me disiez que je suis totalement à côté de la plaque, que j'ai pas réfléchi à un sujet, tout à fait. Du moment que vous le faites de façon respectueuse, vis-à-vis du streamer, on s'en fout un peu, mais surtout vis-à-vis des gens concernés. Pas de propos discriminants, pas de propos insultants, pas de propos injurieux, voilà. Et à partir de là, on peut discuter de tout. Moi-même, j'ai évolué sur ces questions. Hein. c'est un sujet que je connaissais il y a quelques années, que je ne maîtrisais pas du tout. Hein. J'ai lu, je me suis intéressé, j'ai écouté, j'ai rencontré des personnes concernées, j'ai entendu et je me suis fait ma propre conviction. Voilà. Faut-il être tolérant avec l'intolérant ? Je ne suis pas certain, dit Azimut. Jusqu'à un certain point, oui. Jusqu'à un certain point, oui. Pour favoriser le dialogue et peut-être pour faire réfléchir les gens, et leur donner des arguments, au moins qu'ils puissent les entendre. Si je décidais de ban toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi dans ce chat, je ferais beaucoup de bans. On se retrouverait entre nous, un petit groupe, hein, on serait très heureux, très contents, on serait tous d'accord sur tout, ce serait formidable, voilà. Quel intérêt ? Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'échanger des arguments. Parfois, d'ailleurs, je suis pas d'accord avec vous sur des sujets, et puis je regarde vos arguments, et puis je me dis, en fait, c'est eux qui ont raison. Et si ça marche pour moi, ça peut marcher pour les autres. Si moi, j'ai évolué sur certains sujets ici, en lisant vos arguments, si moi j'ai évolué, d'autres peuvent évoluer aussi. Oui. Donc, oui, on peut être tolérant avec l'intolérance jusqu'à un certain point, bien sûr. Jusqu'à un certain point. C'est pour ça que je me permets de temps en temps de bâcher, de crier, de me moquer, de faire preuve de mauvaise foi, parce que parfois je me moque un petit peu des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais... en même temps, je me dis arrête Sam, parce que c'est aussi bien de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec toi. Quelle est la limite alors ? Ben justement ça. Yogan Sima, quelle est la limite de tolérer l'intolérance ? Ben c'est de sentir qu'en face il y a une volonté au moins d'exprimer correctement ses idées et de vouloir échanger malgré tout, malgré nos différences. Le propos devient injurieux, discriminant et que tu sens qu'il y a pas de volonté de dialogue, bon bah ben là on arrête. Ça n'a aucun intérêt. Mais souvent, quand même, il y a quand on fait comprendre à la personne que même si elle n'est pas d'accord avec nous, on peut échanger. Tout le monde fait un effort, quoi. Sol me dit, est-il possible de critiquer la théorie du genre ? J'en ai pas l'impression. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord, que tu ne la comprends pas. Voilà, si c'est exprimé comme ça, il a le droit. Il ou elle a le droit. Et on peut en parler. Du moment que tes propos ne sont pas discriminants, ne sont pas insultants, ne sont pas... Et que tu fais l'effort de comprendre, d'essayer de comprendre, essayer de comprendre pourquoi certains défendent ce que tu appelles une théorie. Voilà. Mais enfin, LM, personne ne te dit ça, LM. Voilà, c'est la nuance entre comprendre et être d'accord, exactement. Exactement. Bon, je suis content d'avoir échangé là-dessus avec vous. Bon, le jeu vidéo, c'est formidable, c'est une culture incroyable que j'adore explorer, mais on ne va pas se voiler la face, c'est quand même un milieu où les conditions de travail et les salaires ne sont pas toujours très terribles. Vous êtes plusieurs comme Franck à me dire « Mais qu'est-ce que tu penses du sport dans ce contexte ?» Tu sais, des femmes trans ou des femmes qui étaient des hommes avant, et alors ça c'est un tout petit aspect du sujet, mais moi j'ai l'impression que certains se servent de ce tout petit aspect qui concerne très 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 peu de personnes pour s'empêcher de réfléchir au vrai sujet. Vous n'avez pas l'impression parfois que ces gens qui, je ne dis pas ce que vous faites, hein, mais je vous vois depuis tout à l'heure, en mode « Ah oui, mais alors dans le sport, alors tu sais et vous allez me chercher une compétition universitaire américaine où il y a une nageuse qui n'a pas toujours été une femme, etc. Bon, vous allez chercher dans un obscur truc, là. Vous n'avez pas l'impression, au fond de vous, vous allez chercher un mini-truc, tout petit, qui vous empêche de réfléchir à la globalité du sujet. Vous n'avez pas cette impression-là ? Un petit peu. Que c'est un petit peu anecdotique par rapport à l'importance du truc. Je pose la question. Allez, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est formidable, mais... comme souvent dans les métiers passion, bah les conditions de travail et les salaires ne sont pas toujours terribles. Quoi. Plus de 10 000 licenciements dans le jeu vidéo depuis janvier. Ces derniers mois, la casse sociale a été lourde dans le secteur. des studios indépendants aux gros acteurs du secteur, le phénomène concerne l'ensemble des acteurs. Ça c'est beau le début. Je ne pense pas que ce soit anecdotique. C'est une question de proportion en fait. Une question de voilà. C'est presque des maths. C'est presque des maths. Regardez le nombre de cas d'histoire dont vous parlez par rapport au nombre d'athlètes dans le monde, par rapport même à la question, au débat que nous faisons de voilà et voilà. Faites une petite règle de 3, faites des petits calculs mathématiques comme ça. Vous allez voir si c'est anecdotique ou c'est pas anecdotique. Si vous pensez que c'est un sujet d'importance capitale et mondiale par rapport aux problématiques qu'on évoque, c'est que vous ne savez pas faire une règle de 3. On commence cet article. Ne nous utilisez pas comme des hommes de paille pour des erreurs de calcul ou des angles morts. Ne faites pas de nos environnements de travail des jungles darwinistes. Vous dites que nous vous rendons fiers lorsque nous faisons un bon jeu vidéo. Rendez-nous fiers quand les temps sont durs. Actuellement, de grandes équipes disparaissent à nouveau sous nos yeux. C'est un coup de couteau dans le ventre. Qui dit ça? C'est Dinga Bakaba, qui est directeur du studio du développement Arkane. Oui, mesdames et messieurs. Arkane Lyon, propriété de Microsoft depuis son rachat à 75 milliards d'Activision, en réaction à la réduction d'effectifs ou à la fermeture dans d'autres studios du groupe américain. Merci beaucoup RZLED2802 pour le soutien à cette chaîne. Merci RZLED. Merci à Yeltak. Un coup de gueule public qui intervient alors que la casse sociale se poursuit dans le secteur du jeu vidéo. Depuis le début de l'année, plus de 10 000 licenciements ont été recensés par le site videogameslaysoff.com. Donc je suis allé vérifier ces 10 000 dans le monde, c'est pas qu'en France. Soit presque autant qu'en 2023, 10 500, et bien plus qu'en 2022, 8 500. Toutes les typologies d'acteurs et compartiments de la chaîne d'industrie vidéoludique sont concernés. Les géants pour PC, console, Take-Two, EA, Microsoft, les acteurs indépendants, Paladin, Cherry, etc. En passant par le poids lourd du jeu mobile, Playtika, le moteur de jeu Unity, la plateforme de live streaming Twitch, hein, ou encore le chat des gamers, Discord. Papier dans les échos, hein, ça parle de Discord, ça parle de Twitch. En cause, pourquoi ces suppressions d'emplois? Cyknos, on essaye de faire tous les matins, ça dépend un petit peu de l'emploi du temps. Le recul du marché en 2022, moins 5% sur un an, suivi d'une infirme reprise l'an passé, plus 0,6%, ça n'est pas terrible. Contrastant avec les exercices 2020 et 2021 et le confinement de l'époque qui avait, merci Warscops pour le 21e mois, le confinement qui avait dopé le secteur du jeu vidéo, bien sûr. On se retrouve à la maison et on cliquait. Résultat, de nombreux grands groupes qui avaient vu trop grand en matière d'embauche. C'est intéressant ce que dit Glandouf, l'aigri dans le chat. De grands groupes qui avaient vu trop grand en matière d'embauche, de volume de jeu, de budget, de croissance externe, réduisent désormais la voilure depuis plusieurs mois. La France est relativement épargnée par le phénomène, disent les échos. Si on comptabilise également les non-remplacements, ça se monte à quelques centaines de départs depuis un an et demi, quand même. Hein. Et on constate aussi un gel des embauches, donc ça n'est pas rien. C'est ce que dit Pierre-Étienne Marx, qui est représentant du syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Et c'est bien qu'il y ait un syndicat du travailleur des jeux vidéo. Syndicaliste qui dit que le secteur paie aussi l'arrivée de nouvelles catégories d'investisseurs attirées par le boom des années 2020-2021. Beaucoup de fonds d'investissement ont débarqué dans un secteur et ne voient les studios comme des véhicules de profit. Mais nous sommes une industrie culturelle où les jeux nécessitent de longues années de production, où tout n'est pas prévisible. Cela se marie mal à la logique de court ou moyen terme très financière. On voit aussi que les industriels du secteur s'interdisent de plus en plus de droits à l'erreur, ce qui est pourtant le propre d'un marché de création. Est-ce qu'un jeu va marcher, pas marcher? Alors que le jeu vidéo au niveau mondial devrait croître de 2,9% sur 2024 et atteindre un niveau historiquement haut en 2025, à près de 200 milliards de dollars, l'ère des coupes claires dans le secteur est-elle sur le point de se terminer? Bon, en tout cas, là, il y a des années difficiles, mais les échos disent que ça pourrait se calmer un petit peu. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans ce secteur ici. N'hésitez pas à témoigner de ce que vous vivez. Liamos, pardon, je n'ai pas vu ton message. Je suis tout juste diplômé de 3D. Franchement, il n'y a pas que le jeu vidéo qui est touché. Toute l'industrie de la 3D est touchée de par les grèves de l'an dernier, de par l'arrivée progressive de l'IA dans les métiers artistiques et aussi par le fait que les gens qui ont des années d'expérience et de base mieux payés ont bradé leur prix et se sont rabattus sur des petits boulots. Ça fait qu'il n'y a plus de place pour nous, les jeune, merci de ton témoignage. Je suis un des derniers devs de ma boîte en France, me dit Mini Wedge, on coûte trop cher, mais mes collègues en Inde n'ont pas du tout nos compétences et n'arrivent pas à prendre le relais. Écosse, je travaille dans le cinéma d'animation. Franchement, c'est pareil pour notre branche, très compliqué, surtout que les distributeurs comme Netflix ou Amazon, par exemple, n'achètent plus les projets. Merde. On est dans un creux économique professionnel jusqu'à 2025 facile. C'est vraiment pas évident en ce moment. Merci pour vos témoignages. Et c'est encore pire dans le cinéma d'animation, me dit Lune 27. On ne laisse pas la place aux juniors dans le milieu du jeu vidéo, me dit Mamie Colette. C'est drôle, Mamie Colette qui défend les juniors trop chou. Merci beaucoup. Merci Eldwist, merci pour ton message. Et je suis d'accord avec toi. C'est intéressant ce que dit Echo Padman. Parce que là, on parle des salariés, mais il y a beaucoup de travailleurs de jeux vidéo qui sont indépendants aussi. Je ne sais pas s'ils sont inclus dans l'analyse des difficultés du secteur français. Très bonne remarque. Très bonne remarque. J'ai travaillé un an sur un projet incroyable dans un studio indépendant breton, me dirait quel fin de bail. On a été obligé de stopper l'aventure car hyper difficile de financer ce genre de projet en France. Je suis développeur web, le marché est catastrophique actuellement, me dit Adraenor. Très dur de trouver des missions. Étudiant en informatique du côté de Nitros, trouver des stages en alternance ou alternance devient de plus en plus dur. Some friends, je peux en témoigner dans le secteur de l'animation 3D, effets spéciaux, on est bel et bien touché par un phénomène similaire. D'autant qu'il faut rajouter à tout ça les effets de la grève des scénaristes acteurs qui n'en terminent pas. Ah, je crois que c'était terminé, moi, aux States. J'ai perdu mon crayon. Travaillant dans le milieu de jeux vidéo en tant que concept artiste depuis 4 ans, me dit Kuro, on voit bien qu'il y a beaucoup moins d'offres. Waouh. C'est chaud, hein. Métier passion, mais métier super compliqué, quoi. Si jamais je lance un jour sur cette chaîne une émission sur le travail, sur l'emploi, au sens général, sur comment s'épanouir dans son job, comment éventuellement en changer, l'orientation, est-ce qu'on doit tous avoir des métiers passion, est-ce qu'il n'y a pas des métiers un peu cool aussi sans partir sur des trucs de fou. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ça un jour, parce que je pense que c'est des sujets importants. Peut-être que je ferai un truc là-dessus un jour. C'est un grand oui. Merci, Koshema. Bonne idée. Ok. Sujet intéressant. Ok. Ce sera un stream d'utilité publique. Ouais. Ce sera... Ok, ça vous plaît. Ok. Peut-être que je lancerai un truc là-dessus un jour. Orientation, formation, emploi, travail, mais chill, quoi, qu'on puisse en discuter. Et surtout, c'est donner des conseils aux gens, quoi, pour les accompagner, les aider. Parce que franchement, une vie professionnelle, c'est pas facile. Hein, hein? En vrai. En pleine réorientation, ça m'intéresserait beaucoup, me dit Dr. Dank Manchinol. Peut-être que c'est déjà en prod, demande Boubou. C'est jamais avec moi. C'est jamais avec moi. Je suis déscolarisé, je dis pas non, me dit Frenchie. Trop de gens malheureux dans leur travail, exactement. Rollback. Moi, je pars de là, effectivement. Je pars de là, en me disant qu'il y a peut-être des conseils à donner aux gens, quoi, pour les aider un peu, quoi. Essaie de gratter une sponsor France Travail, me dit Jules Abricot. Oh, pardon. Oh, ça pique le nez.
Les pollen.
Oh, on lance un deathmatch. Pas du tout. 11h28. Oh, faut que je me dépêche. Allez, bah on finit, parce que j'ai rendez-vous avec un... J'ai 2-3 rendez-vous, là, puis cet après-midi, je fais un pilote. J'aide un copain producteur. Je suis l'invité bêta d'un pilote d'une émission gastronomique. Voilà. C'est pour rendre service. Donc ça va me prendre l'après-midi. Et puis, et après, je vous retrouverai peut-être ce soir pour un stream gaming aux alentours de 22h, après mon dîner avec mon amoureuse. Je travaille aux impôts, épanoui dans le taf, maillot. Bah ce sera, si un jour je fais une émission là-dessus, ce sera une façon de, aussi de, d'expliquer que l'épanouissement, il peut dépendre de plein de choses et il n'est pas obligé de passer par un métier passion, comme on dit. Hein, on va pas se mentir. Quand t'es enfant, tu dis pas, putain, plus tard, je serai agent des impôts. Non. Oui, d'accord. Je veux être pompier, je veux être policier, je veux être cinéaste, je veux être médecin, je veux être. Bon, mes enfants, ils veulent tous créer du jeu vidéo. Ça dépend de l'environnement de travail, exactement, dit Sakuralina. Moi, je fais un métier passion, hein. Bon, ben, parfois, t'en prends bien plein la gueule, hein. Hein? En fonction des conditions de travail, des gens avec qui tu travailles, etc. Donc, ça dépend de plein d'autres choses, en fait, et pas seulement le secteur d'activité, quoi. Astronaute, dresseur de Pokémon. Hein. Et les gars qui bossent à l'URSSAF, ils aiment leur boulot aussi? Ben, peut-être, ouais. Tiens, regarde, il y a Ashtaka qui voulait travailler à l'URSSAF quand il était petit. Si, peut-être. Je rêve d'être rentier, Yogi Boom. Tu pourrais être malheureux, rentier. Moi, j'ai rencontré des rentiers très malheureux. Ça dépend beaucoup de la personne, en fait. Tiens, regarde, Nefertesis travaille à l'URSSAF et peut-être très heureux, très heureuse. Hein. Ça dépend du cadre de travail, ça dépend des gens avec qui tu bosses. Je suis sûr que même être streamer, je suis sûr qu'il y en a pour qui c'est difficile parce que les conditions matérielles sont compliquées, parce qu'ils ont, ils ont pas rencontré les bonnes personnes, parce que bon, moi je suis heureux parce que vous êtes super nombreux et merci à vous, et parce que je travaille avec des gens que j'adore, je m'entends vachement bien avec les gens avec qui je travaille, enfin c'est un kiff, mais les planètes sont un peu alignées, quoi. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. On va se dire adios dans un instant, tous là. Je vais faire un raid. Petit clin d'œil à une de l'équipe. Comment se dire adios? Joli titre. Et en même temps, l'équipe nous dit, on se dit pas adios. On dit pas adieu à Nadal. Et moi, je suis content parce que j'adore Nadal. Nadal qui n'a pas réussi dans l'exploit face au numéro 4 mondial pour son premier match à Roland-Garros. On rappelle que Nadal n'était pas tête de série puisque il est tombé à la 270e, 280e place mondiale. Je ne sais pas parce qu'évidemment, beaucoup blessé, il n'a pas pu jouer, donc pas de tête de série. Donc il tombe sur un très fort d'entrée. Bam, bam, bam. Zverev, il aurait dû le rencontrer en demi ou en finale. Bon, du coup, il s'est fait sortir. Mais l'équipe dit des choses très intéressantes. Nadal n'a donc pas réussi l'exploit face à Zverev. Donc battu en 3-7, malgré ses progrès et le soutien du public parisien, à bientôt 38 ans, il a peut-être disputé son 19e et dernier Roland-Garros. Oui, mais c'est peut-être pas terminé. Zverev l'a laminé. Ouais, mais Zverev, c'est le numéro 4 mondial, et c'est ça qui est intéressant. Julien Reboulet, très bel article dans l'équipe. Bravo Julien. Il y a 128 joueurs dans un tableau final de Roland-Garros, et à la fin, c'est Rafael Nadal qui gagne, qui gagnait plutôt, hein? Jusqu'en 2022, jusqu'à ce que son corps, déjà rafistolé de partout, ne cesse à s'éparpiller façon puzzle. Et pourtant, écoutez bien cette phrase. 120 des 128 participants de cette édition 2024 auraient perdu contre le Nadal d'hier. Écoutez bien cette phrase. 120 des 128 participants du tableau final de Roland-Garros auraient sans doute perdu contre le Nadal d'hier. Et les 7 autres auraient dû sacrément s'employer pour avoir une chance de le battre s'ils avaient dû croiser sa route la semaine prochaine. Le rendez-vous au pied de la montagne Zverev a simplement été programmé quelques jours trop tôt. C'est tout le paradoxe d'un scénario à la fois brutal et enthousiasmant. Pour la première fois de sa vie, Nadal a perdu au premier tour des internationaux de France. Mais ce coup d'arrêt est un nouveau départ. À bientôt 38 ans, l'Espagnol a glissé ces dernières semaines ses pieds polytraumatisés dans des bottes de 7 lieues. Il y a encore un mois, c'était pas gagné qu'il joue. Alors jouer pour gagner, tu parles. Et pourtant, on était loin hier du service de Poussin, du déplacement d'Abuela, de ses premières sorties printalières. La machine de Manacor s'était tellement bien remise en branle durant une intense semaine d'entraînement sur à peu près tous les courts disponibles à Roland qu'elle était en train de reprendre la vitesse de croisière enivrante du candidat de grandes choses. Elle a juste manqué d'un peu d'élan au moment d'emprunter une route s'élevant de façon trop abrupte dès le premier lacet, la faute à ce statut de tête de série, dont ses blessures à répétition l'ont privée à jamais. Si Nadal progresse autant dans les 2 prochains mois qu'il vient de le faire au cours des 2 derniers mois, la conquête du titre de champion olympique aux Jeux de Paris n'aura plus rien d'une vue de l'esprit. Ça vous change un homme, une défaite d'entrée à Roland-Garros. Voilà. Tivresse dit, je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Non, moi je crois pas. Quand tu vis une passion comme Nadal vit une passion pour son sport, quand tu as 38 ans, c'est quand même pas vieux, eh bien, tu as le droit de rêver jusqu'au bout. Tu as le droit de te battre jusqu'au bout. Tu as le droit de faire des belles choses jusqu'au bout. Et ce que nous dit l'équipe, c'est que perdre contre le numéro 4 mondial, alors que potentiellement tu peux laver 170 joueurs du tableau principal, eh bien, c'est que c'est peut-être pas le temps de tirer ta révérence. Voilà. Voilà. C'est sa passion et les compétiteurs comme Lidou Rennes. Et c'est normal qu'il rêve encore de victoire, exactement. Et je trouve ça beau, comme Mitra Max. Voilà. Djoko est premier joueur mondial à 37 ans. Il est premier, Djoko, actuellement. Il a pas... C'est pas un peu difficile pour lui en ce moment? C'est numéro 1 mondial, Djoko, peut-être, Marc. Ouais. On m'a dit que ses derniers, dernières sorties n'étaient pas terribles. Peut-être qu'il est toujours numéro 1 mondial. Djoko, les premiers? Ah, c'est fini, il n'y a plus. Comme le disait Dalida, moi je veux mourir sur scène. Moi je veux mourir sur scène. Et numéro 1, bon, sur scène. Ta-la-la. Toujours premier. Les amis, quelle heure il est? 11h35. Je viens d'éteindre mon iPad et je le rallume. Car j'allais cut et en fait je ne vais pas cut. Merci 18h30 pour le 12e mois. Merci Warscops encore. Ah, vous avez deviné, c'est pas drôle, ils ont deviné, ils sont en train de me donner l'horoscope. Ok, je vais vous trouver. Alors, le jeu de l'horoscope, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, quand on arrive sur la page de l'horoscope, qui évidemment n'est pas un exercice scientifique, hein, ça n'a aucun sens, mais ça nous fait marrer, eh bien, il y a un petit jeu, le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat quand je dis horoscope. Eh bien, je lui lis son signe. Sauf que, là, vous avez deviné. Donc, tout le monde a joué. Donc, je vais vous poser une question d'actualité. Et le premier qui me donne la bonne réponse est sur la même ligne son signe astrologique, sinon ça ne marche pas, correctement orthographié, je lui lis son signe. Attention, voici ma question. Quel âge? A. Aujourd'hui, la streameuse Elidia qui est venue dimanche soir dans Simplay. Aujourd'hui, c'est parti. L'âge et le signe. Ta-ta-ta, 42 ans? Bah, t'es cool. 38 ans? Elidia? Non mais Elidia qui est venue dimanche, 38 ans? Attends, j'espère qu'elle regarde pas ce stream. Ok, c'est gagné par la Mandalorienne, si je dis pas de bêtises, 19 ans. Et Lyon, attends, 19 ans ou elle va avoir 19 ans? Non, elle va avoir 20 ans. Alors, les modos, vérifiés, mais je crois qu'Elidia nous a dit qu'elle avait 19 ans et qu'elle allait avoir 20 ans. Le 4 juin. Les modos, vous avez ça en tête aussi, hein, Lydia, 19 ans, 20 ans le 4 juin. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est la Mandalorienne qui a gagné. Sugarfrog me dit, oui, c'est ça. Ok, vamos. Putain, les gens qui ont répondu 37 ans, 38 ans, j'espère que Lydia ne regarde pas ce stream. Vous tapez, si vous tapez point d'exclamation Rennes, R-E-I-N-E, dans ce chat, vous avez accès au replay de cette émission sur YouTube, vous avez tous mes replays d'ailleurs, avec Elidia, on a joué à Wii Sport, on a tellement rigolé. Ouais. Ah, vous parliez de Nadal? Ah, ok. Point d'exclamation Rennes, R-E-N-N-E, et vous avez le replay. Pourquoi Rennes? Parce que c'est une queen, bien sûr. Donc c'est Lyon, qui était le signe de ma maman, donc c'est un signe que j'aime bien. Lyon. Cœur. Et comme je suis sympa, je zoome un peu, et ça veut dire que les Gémeaux, les Cancers, les Vierges, les Balances, les Scorpions, les Sagittaires, les Capricornes. Vous pouvez lire votre signe aussi, Lion. Votre vie de couple risque de subir des orages. Attention. Réussite. Vous donnerez beaucoup de temps et d'énergie à des projets qui vous tiennent à cœur. Excellent. Forme. Vous bénéficiez d'une bonne résistance. C'est pas mal, les Lions. 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 Les amis, on y va, on s'en va, bye bye, vamos, hasta luego. Non, blague à part, on se retrouve ce soir, mais pas trop tôt, pas avant 22h je pense, parce que je serai en dîner avec mon amoureux juste avant. Merci pour ce matin, merci d'avoir échangé, même si on n'est pas d'accord sur tout, sur des sujets aussi compliqués comme on l'a fait ce matin. Pardon pour cette ironie, parfois un peu, je me moque, un peu facile, c'est un peu facile comme exercice, je m'en veux quand je fais ça. Parfois, je pousse un peu le trait, ou voilà, je fais des petites vannes pour faire rire un peu, mais c'est pas toujours très, très malin ni très respectueux. Je demande dans le chat à ce que tout le monde s'exprime correctement et moi-même, je fais un peu le malin parfois. Et... J'en ai conscience. J'en ai conscience et je ne suis pas parfait, je suis même très imparfait. Et souvent, je me dis qu'il faut que je travaille là-dessus. Mais la voilà, vie, je pense, c'est ce travail aussi de travail sur soi pour devenir un être humain meilleur et faire un peu moins chier les autres. Voilà. Et parfois, quand même, je me dis que je fais quand même un peu chier les gens. Voilà. Mais au moins, j'en ai conscience et je travaille là-dessus dans mon rapport aux autres. Voilà. J'ai été bien pire. Mais il y a encore du boulot à faire. Quoi. Donc parfois, cette petite ironie là. Ah, comme la règle 3 tout à l'heure, par exemple. Vous voyez, ça, c'est pas très fut-fut. Mais bon, ça fait rire et tout. Voilà. Ah, mais bon, je bosse là-dessus, j'en ai conscience. Et ça prend pas des semaines ou des mois ou des années, ça prend des décennies. Il y a des trucs chez moi que depuis le début, que j'essaie d'améliorer et sur lesquels je progresse, mais c'est très lentement. Hein. C'est très lent. Hein. Bon. Bon, après, il y a des trucs que je fais correctement, mais... Donc voilà, c'est bien un stream pas trop léché, authentique. Alors ça, c'est sûr que c'est authentique parfois. Hein. Merci Elisa pour le 30e mois, tu régales. Voilà, donc pardon pour parfois les petits dérapages là. C'est aussi pour créer des moments où je sais que ça fait rire certains, mais parfois c'est faire rire certains au détriment d'autres. Ça, c'est pas top ça. Bon, enfin. Tu es jeune, c'est bien normal. Merci Moulbit, tu régales. Hey, qui est en live? Qui on va soutenir? Vous êtes tellement nombreux ce matin, c'est fou. Trop gentil. Allez, on va soutenir quelqu'un d'autre. Je vais mourir sur scène. Alors, qui est en live, là? Qui est en live? Il y a des gens qu'on aime. Il y a des gens qu'on aime. Il y a plein de gens qu'on aime. Oh, tiens. C'est quoi, ça? OK. Je vous lis, hein, je regarde aussi qui est en live. Ok, vous avez des propositions? Ouais, j'ai vu, ouais. Merci Rafoods. C'est faux, mais c'est gentil. Ouais, je connais, ouais. Vous me proposez des gens que j'ai déjà raid, souvent. Qu'est-ce que c'est, ça? Par contre, je connais pas, ça. Oh, j'ai peut-être trouvé. Quoi, saute? C'est génial, ça. Je crois que j'ai trouvé. Vous êtes plusieurs à me parler de... Attendez, je vais retrouver le message. De Monody, qui fait un Paris-Marseille à pied. J'ai l'impression qu'il a un petit chariot qui pousse pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Il y a 800 viewers sur sa chaîne actuellement. Il y a 7000 euros déjà collectés. Je trouve ça super. Bah ça, c'est un beau raid, les gars. Monody. C'est parti. Let's go. Incroyable. Ça, c'est chouette. Et bravo. GG à lui. Hein. C'est beau, hein. Monody, c'est parti. OK. Bon, eh ben, dites-lui bravo de ma part. Dites-lui que c'est formidable. Je suis très impressionné. En plus, on est en pleine nature. On est au bord de l'eau d'un canal ou d'une rivière. Là. C'est magnifique. Voilà. Ça va être un beau raid. Merci, vous êtes formidables. Voilà. Mettez-moi de la lumière et un peu d'amour dans ce monde, s'il vous plaît. On se retrouve ce soir tard pour jouer aux jeux vidéo. Et vous verrez un mec un peu vieux, un peu bizarre, en train de hurler parce qu'il est nul à ce jeu. C'est ça qu'on aime. C'est parti pour le raid. Je le charge, le raid. Comment on le rejoint? Ne bouge pas ma tartiflette, ça va se faire automatiquement. Tu vas passer automatiquement sur la chaîne de Monody. C'est ça la beauté du raid. C'est ça la beauté du raid. Ça y est, c'est prêt. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la vista, baby!
Je joue à CK2 et 3 constamment. Ah là là! Mais non! Bonjour. Oh, le dédos de malade. Merci Samuel Etienne pour le dédos. Samuel que j'ai vu du coup bah il y a une semaine et demie à la Zilan. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Ça fait un peu de monde, hein. Je vois le chat qui s'excite là. Bienvenue sur ce quatrième jour du Paris-Marseille.